Ofisi Lorio Mazarini susține regina forță.
Bonsoir, ce soir nous allons ouvrir un dossier qui peut faire froid dans le dos, les apparitions et les maisons hantées. C'est un phénomène qui existe, figurez-vous, et qui s'est produit à de nombreuses reprises. Je ne parle pas là d'histoires que l'on se raconte le soir au coin du feu pour se faire peur, absolument pas. Je parle de dossiers étudiés par une cohorte de scientifiques qui sont arrivés à la conclusion que l'hypothèse vraisemblable, plausible, était le poltergeist ou encore l'apparition, production de phénomènes tout à fait étranges. Bien que déroutants, il faut essayer de prendre le phénomène sereinement et de ne pas se croire fou quand il se produit. Alors deux spécialistes de la question vont nous accompagner ce soir et répondre à toutes vos questions et écouter vos témoignages. Notre standard est à votre disposition. Cyril vous y attend au 0826 300 300. Vous pouvez appeler dès maintenant pour venir nous rejoindre et discuter avec nous. Je vous présente tout de suite les deux spécialistes qui vont nous accompagner jusqu'à minuit. La première, c'est Pascal Catala, qui est diplômé de psychologie et d'informatique et qui appartient à l'IMI, qui est l'Institut Métapsychique International. Elle est l'auteur d'un livre qui fait référence dans le domaine des apparitions et des maisons hantées. Ce livre s'appelle « Apparitions et maisons hantées ». C'est paru aux presses du Châtelet. Elle sera avec nous tout à l'heure. Philippe Vallon également sera notre second spécialiste. Il est psychiatre, lui est chargé de recherche à l'INSERM. C'est l'Institut Scientifique d'Études et de Recherche Médicale. On lui doit bon nombre d'ouvrages sur les phénomènes paranormaux et il a signé d'ailleurs la préface du livre de Pascal Catala. Il nous rejoindra tout à l'heure à partir de l'admi. Donc je me retourne vers vous, nos auditeurs, et le standard 0826 300 300. Vous nous appelez pour que l'on puisse discuter ensemble, répondre à toutes vos questions. Profitez-en, on a des spécialistes sous la main ce soir qui vous écouteront de manière tout à fait attentive et on commence tout de suite avec un premier appel. Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je vous ai rappelé, car vous êtes intervenue déjà pour nous apporter un témoignage dans notre première émission, Les Aventuriers de l'Étrange. Je vous ai rappelé parce que votre maman a vécu quelque chose de très particulier.
Oui.
Que l'on pourrait, à mon sens, qualifier d'apparition. D'abord, ça s'est passé il y a combien de temps exactement, ce que
je
votre maman a vécu?
Je pense que c'était en 70.
Oui.
Ce n'était pas d'hier. Et c'est son frère qui était décédé dans mon appartement, puisque je m'occupais de lui. Ma mère est venue me rejoindre.
Mmh.
Après les obsèques, elle a couché dans la chambre et dans le lit de son frère. Il n'y avait pas de raison, hein.
Ouais.
Et tous les matins, à mon réveil, elle me disait, figure-toi que Émile, c'était le nom donc de son frère et de mon oncle.
Ouais.
Émile m'est apparu, je l'ai vu assis au pied de mon lit. Ah bon?
Oui, oui.
Alors, moi, j'ai demandé des détails, mais bon, je me suis dit, peut-être maman a rêvé ou bon. Moi, je ne suis pas du tout sceptique. Quand il s'agit de ce genre de manifestation, vous voyez, je suis très ouverte. Bon.
Oui.
Mais ça s'est reproduit pendant 15 jours.
Pendant 15 jours, chaque matin, votre maman...
Chaque matin, alors moi j'étais impatiente, au lever, je courais, je posais des questions à maman.
Oui.
Alors, il est encore revenu hier soir, oui. Et alors je disais, mais comment, sous quelle forme, était-il habillé? Elle me dit, mais tu es sotte. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il était là, c'était Émile, et j'avais l'impression qu'il voulait me transmettre un message. Et au bout de 15 jours, malheureusement, le message n'est jamais passé.
Ouais.
Et au bout de 15 jours, ce genre d'apparition, entre guillemets, parce que je ne pense pas que c'était concrétisé. Bon, mais ma mère était médium, hein. Par exemple, je sais que quand nous étions jeunes, nous habitions Cannes, et bien, il y a une ou deux de ses amies qui sont décédées prématurément. L'une parce qu'elle avait pris trop de somnifères, par exemple.
Ah oui, oui.
La
oui.
nuit où ça s'est passé,
oui.
ma mère a fait des cauchemars. Le matin, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à Jeannette, mais j'étais en sueur toute la nuit et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Et quelques temps après, mettons une semaine ou 15 jours après, on a appris le décès de cette grande amie de ma mère.
Effectivement.
Et dans plein de circonstances, même anodines, par exemple, je recevais une lettre d'une amie que je n'avais pas vue, dont je n'avais pas de nouvelles depuis 10 ans, le jour même, ma mère me parlait de cette amie, vous voyez,
ouais,
d'avoir
ouais,
eu
ouais.
connaissance, donc elle était, la transmission de pensée marche.
Elle avait vraiment une grande sensibilité à ce niveau-là.
Absolument. dans la famille, on disait qu'elle était médium.
Ouais, ouais, ouais.
Et moi, j'ai hérité un peu, mais beaucoup moins aussi, de ce genre de manifestation. Mm-hmm. Je vous parlais 3 semaines environ avant le dramatique incident de détour de New York.
Oui, oui, oui.
Mm-hmm. J'ai rêvé de Tours.
Mm-hmm.
Mais moi, je ne suis jamais allée en Amérique. Je ne savais même pas qu'il y avait des tours jumelles. J'ai vu de Tours et c'est un rêve qui m'a marqué pendant au moins 3 ou 4 jours. Je ne cessais de me dire, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai pas eu de message. Mais c'était comme si on voulait me transmettre quelque chose aussi, vous voyez.
Mmh. Mais revenons à ce qu'a vécu votre maman.
Oui.
Est-ce qu'elle vous disait, enfin, chaque matin, vous alliez la voir, évidemment.
Mais pendant... J'habitais à ce moment-là dans le même appartement. En fait,
oui.
C'est elle qui était venue habiter dans mon
voilà.
appartement.
Oui, oui.
Donc j'avais ma chambre, elle dormait dans la chambre de son frère décédé quelques jours plus tard.
Oui.
Et pendant les 15 jours qui ont suivi les obsèques, elle a vu son frère assis au bout du lit. Ma grand-mère, c'était exactement la même chose quelques jours avant son décès, alors qu'elle n'était pas en mauvaise santé. Bon, elle était très âgée et elle avait quelques problèmes de gêne respiratoire.
Mmh.
Mais pendant 3 jours, tous les matins, à ce moment-là, je n'habitais pas chez ma grand-mère. Je venais la voir et elle me disait... Je lui disais, comment vas-tu, grand-mère? Bon,
ouais.
Un certain matin, elle me dit, figure-toi que Fernand, j'ai retrouvé le nom de mon grand-père, que Fernand était assis au pied de mon lit, exactement comme pour ma mère. Et bon, et alors? Il te disait quelque chose? Non, il était assis, il restait un grand moment, bon.
Elle le voyait comme s'il était réellement assis au pied de son lit, quoi.
Elle me disait, il est au pied de mon lit, mais c'est comme pour ma mère, elle pouvait pas dire que... il était comme ça, habillé comme ça, il avait bonne mine, vous voyez, ce sont des choses...
Oui.
Ça se situe sur un autre plan, je pense.
Mm.
Ma grand-mère, ça s'est produit 3 jours, et elle est décédée environ 5-6 jours après.
D'accord. Donc, c'est comme si ces apparitions étaient venues lui délivrer une sorte de message, quoi.
Voilà, ma grand-mère m'a d'ailleurs dit, je lui ai même dit, le deuxième ou troisième matin, elle m'a dit, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que tu viens me chercher? Je suis très bien où je suis. Reste où tu es, moi je reste où je suis. Puis elle avait 87 ans, elle n'avait pas du tout envie de partir.
Ouais.
Elle avait toute sa tête.
Mais elle sentait que l'apparition chaque matin de son mari, de son défunt mari,
oui.
Assis sur le bord de son lit, venait lui dire, tu vas bientôt nous rejoindre en quelque sorte.
Absolument, elle l'a compris comme ça, puisque ses propres paroles ont été, je lui ai dit, écoute, fiche-moi la paix. Je n'ai pas du tout envie d'aller avec toi, je suis très bien où je suis, reste où tu es toi-même.
Ouais.
Et ça a duré 3 jours. Après, ça s'est terminé, et quelques jours après, ma grand-mère est décédée, alors qu'on ne s'y attendait pas.
Mmh.
Bon, à cet âge-là, elle avait depuis à peu près une dizaine de jours déjà une gêne respiratoire.
Ouais,
ce qui
ouais.
fait qu'on la maintenait au lit, mais assise.
Mmh,
et calée dans ses oreillers.
Ouais.
Et un quart d'heure avant de mourir, elle me dit, j'étais à son chevet avec une amie, on bavardait gentiment, elle avait une difficulté de d'élocution quand même, mais on la comprenait très bien. Et elle, un quart d'heure avant de mourir, je raconte ça à tous mes amis, c'est l'histoire de la famille, elle me dit, tu connais la dernière chanson de Sylvie Vartan, c'est une merveille. Et elle s'est mise à chanter, ce soir je serai la plus belle pour aller danser.
C'est joli.
Un quart d'heure avant de mourir.
C'est très joli. Mais également, son fils, là on parle de votre grand-mère, hein, donc il y a son défunt mari qui est apparu devant elle 3 matins durant, 3 matins de suite, assis au pied
fils,
de son lit.
Fait, le troisième jour, elle me dit, Julien était avec lui, c'est son fils décédé à la guerre à 20 ans.
D'accord.
Verdun.
Donc elle a eu 2 apparitions le dernier jour, c'est-à-dire le troisième jour, son mari et son fils décédé lui aussi.
Exactement. Et le fils n'est apparu que le dernier jour, le troisième jour.
Ouais. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que autant pour votre maman qui a vu son frère assis sur le bord de son lit, autant votre grand-mère qui a vu son mari, son défunt mari et son défunt fils assis sur le bord de son lit, pareil, aucune des deux n'a été capable de vous dire comment il était habillé, comment...
Non, pas du tout. Ils sont là. Ma mère qui était un petit peu brusque m'a dit... Enfin, pose pas des questions idiotes. Il était là, je le sais, et voilà, je le voyais, je le sentais.
Ouais.
Et ma grand-mère m'a dit, on ne s'est pas perdu dans ces détails, si vous voulez, pour ma grand-mère.
Ouais, ouais, ouais.
Fernand était assis au pied de mon lit. une fois, deux fois, et la troisième fois avec Julien, le fils décédé, ça a été une tragédie, bien sûr.
Oui.
Décédé à Verdun pendant la guerre de 14.
Oui, oui, ça, ça a été un grand drame pour toute la France et pour toute l'Europe.
Oui.
Effectivement. Mais ce qui est d'étonnant, c'est qu'aucun détail physique, ni aucun détail vestimentaire,
aucun,
quoi, par exemple.
Aucun. Ouais. C'est comme si on sentait une présence, vous voyez.
Oui.
Mais catégorique, parce que vraiment.
C'était évident, quoi.
Je m'envoyais promener quand je voulais des preuves. J'ai l'air de douter de sa bonne foi. Or, ma mère n'était pas croyante, parce que je vais vous raconter un petit peu là l'état d'esprit de ma mère. Quand ma mère donc a perdu son frère à la guerre, ce fameux Julien, et qu'elle a perdu l'année suivante de la grippe espagnole une sœur de 21 ans aussi, elle a dit c'est terminé, les histoires de bon Dieu et compagnie, je n'y crois plus,
c'est
enterré définitivement. Elle n'y est jamais revenue.
Ouais. Mais oui.
Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit une personne bigote,
non, absolument
en train
pas.
De chercher des signes ou des apparitions. Pas du tout. C'est quelque chose qui, qui lui a été imposé.
Oui. Et alors, il y a une hérédité donc, dans votre famille. Votre grand-mère avait une certaine sensibilité. Votre mère était considérée comme médium. Et vous-même, avez quelques sensibilités. Avez-vous des enfants?
Non, je n'ai pas d'enfants.
D'accord. Donc, ça aurait pu continuer, quoi. On ne sait jamais.
Ça aurait pu continuer, peut-être, oui. Je pense qu'on a nerveusement une hypersensibilité. D'ailleurs, nos médecins nous le disent.
Ah, d'accord.
On est catalogué dans une... Médicalement, je sais que ça a une...
Vous êtes hypersensible, oui.
Ce sont des gens qui hyper réagissent à tout.
D'accord. Ouais, ouais.
Et qui capte tout beaucoup plus que les autres.
Oui. Beaucoup plus fin, oui, beaucoup plus sensible.
Voilà. Moi, cette histoire de tours, j'ai reconnu les tours quand j'ai vu après qu'elle s'effondrait, et avant qu'elle s'effondre à la télé,
ouais.
Je dis, mais ce sont les tours de mon cauchemar. C'était pas un vrai cauchemar, c'était une impression insistante sur mon esprit pour me communiquer quelque chose. C'est un projet qui a dû être élaboré pendant des mois et des mois par les responsables.
Mais ouais.
J'ai dû capter quelque chose dans l'air. Vous voyez, pour moi, c'est pas tellement mystérieux d'ailleurs. C'est comme je vous disais que j'étais un peu médium aussi. Ce sont des choses qui vous sont imposées. J'ai ma meilleure amie, un jour, qui me dit, elle avait 55 ans à l'époque, et moi j'en avais 47, j'en ai 74 aujourd'hui, hein, et qui me dit, j'ai acheté un nouveau manteau avec cap Macfarlane, vous savez, c'est cap à l'anglaise.
Oui.
Je vais te le montrer. Bon, on en a parlé toute la semaine, elle était dans l'enseignement, moi aussi. Le samedi, je vais chez elle. On goûte, et puis je lui dis, tu m'as pas montré ton manteau. Alors elle va à la place dans sa chambre, elle met son manteau, et elle vient faire le mannequin devant moi.
Oui.
J'étais assise sur le canapé, elle était en face de moi, j'ai commencé à avoir la vue trouble, des sueurs, comme un malaise. Vous voyez, je suis pas tombée dans les pots, mais j'ai eu un vrai malaise, une impression sinistre. Bon, et puis ça s'est passé, voilà, on en a plus parlé. Et bien, le samedi suivant, elle est passée sous une voiture, elle est morte sous le coup. Elle avait ce fameux manteau que j'ai retrouvé en tas, tout ensanglanté dans sa chambre, après quand j'y suis allée avec d'autres amis pour faire quelques démarches. J'avais eu le pressentiment de quelque chose que je n'ai pas pu définir à l'époque.
Donc, bien sûr.
Et j'ai eu un malaise très fort. Un autre cas, mon oncle aussi a eu un accident de voiture, il a reçu sa voiture sortait du garage, le garage était en pente, il n'a pas bien serré le frein, il va ouvrir le portail, il se retourne, il voit la voiture qui dévale, il la reçoit en pleine poitrine. Il a survécu, pas trop mal, mais il a eu, je ne sais pas, peut-être 60 fractures.
Ouais.
Eh bien, quand ça s'est passé, j'ai eu aussi un pressentiment. Je n'ai pas vu la scène, rien du tout, mais j'ai eu un malaise par rapport à mon oncle.
Oui, c'est vraiment une sensibilité familiale.
Voilà, je crois, oui.
Ouais. Merci beaucoup, Camille, en tout cas, de nous avoir apporté ce témoignage. À très bientôt, peut-être. Au revoir.
Voilà, au revoir.
Cyril vous attend à notre standard 0826-300-300. Si vous aussi, vous avez vécu des choses tout à fait étranges, nous allons avoir des spécialistes avec nous prêts à répondre à vos questions, à vous aider à comprendre ce que vous avez vécu. 0826-300-300. Nous attendons vos questions, vos témoignages dans les aventuriers de l'étrange.
Je m'attendais pas à ça.
Les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio jusqu'à minuit avec des spécialistes. La première va venir nous rejoindre dans quelques instants. Pensez-vous que les fantômes, ça puisse exister et surtout qu'ils peuvent éventuellement se manifester? Venez en discuter avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. Des spécialistes sont là pour répondre à vos questions. Et puis vous pouvez leur poser toutes les questions que vous désirez sur justement l'existence, peut-être, probable, je ne sais pas, des fantômes et est-ce qu'ils peuvent se manifester. Pascal Catala, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange parce que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux presses du Châtelet qui s'intitule « Apparitions et maisons hantées » avec en sous-titre « Réalité inquiétante ou fantasme ?» Avant de parler de votre livre, de rentrer dans le contenu de votre livre, une première réaction sur le témoignage de Camille que l'on a entendu il y a quelques minutes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que sa mère ou sa grand-mère ont été témoins d'apparitions, selon vous?
Alors, vous savez, c'est toujours un exercice difficile de réagir à propos d'un témoignage, surtout que là, il n'y a pas eu d'enquête approfondie. Hein,
oui,
donc,
oui.
Mais disons que ce que je peux vous dire, c'est que ce type de témoignage est relativement fréquent. Hein. Ça n'est pas tellement connu, mais en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a au moins 50% des veufs ou des veuves, par exemple,
oui,
qui disent avoir eu des apparitions de leur époux décédé peu après leur décès.
Mm-hmm.
Donc, c'est quand même relativement fréquent.
50%, c'est une veuve ou un veuf sur deux.
Oui.
Ce qui est énorme.
C'est un grand chiffre.
Oui. Ouais. Et les gens n'en parlent pas.
Non, parce que bon, c'est vrai qu'en France, les histoires d'apparitions ou de fantômes, bon, en général, ne sont pas prises très au sérieux. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, de ce fait, quand une personne est confrontée à un événement un peu exceptionnel de ce type, bon, elle se pose beaucoup de questions en général. Hein.
Ouais.
Souvent, elle est un peu déstabilisée parce que elle ne sait pas vraiment comment interpréter ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend. Hein. Et bon, et si ce qu'elle vit est un peu inquiétant, bon, elle voudrait bien en parler autour d'elle, mais elle a peur qu'on se moque d'elle ou qu'on la croit folle la plupart du temps. Hein.
Mm-hmm.
Donc les gens hésitent à en parler.
Oui. Vous avez donc dans ce livre recensé plusieurs cas de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs, de maisons hantées ou d'apparitions, dont certains cas ont été largement étudiés par des scientifiques.
Oui, c'est sûr, il y a eu des études très approfondies, des scientifiques sont venus avec des appareils de mesure, il y a eu des spécialistes d'électricité, de physique, etc.
Mm.
On a essayé de voir si ça pouvait être dû à des phénomènes simplement matériels, électriques, ou à des sources souterraines, du bois qui travaille, des choses comme ça. Essayer d'éliminer un peu toutes les hypothèses les plus probables.
Oui.
Et puis, donc il y a eu des interviews, on a remarqué que souvent les phénomènes se centraient autour d'une personne, souvent un adolescent ou une adolescente, et donc on a essayé de faire des études psychologiques de ces personnes.
Oui, souvent à la base il y a un mal-être.
Oui, souvent, c'est sûr, c'est un adolescent qui est perturbé.
Oui. Pouvez-vous nous citer un cas ou deux que vous jugez particulièrement intéressant et significatif?
Mais, par exemple, il y a le cas de Miami en 67 qui s'est produit dans un entrepôt.
Et qui a été étudié par des scientifiques.
Oui.
Ouais.
Et il y a eu énormément de témoins. Il y a même des officiers de police qui sont venus constater les faits parce qu'il y avait beaucoup d'objets qui tombaient tout seuls et qui se brisaient.
Ouais.
Cet entrepôt, c'était devenu assez catastrophique pour le propriétaire. Et il y a eu énormément de témoins, des journalistes, des scientifiques, tous les employés de l'entrepôt, etc. Donc c'est un cas qui est vraiment largement documenté.
Mmh.
Et semble-t-il que les phénomènes semblaient se centrer autour d'un jeune employé qui s'appelait Julio et qui avait des problèmes psychologiques.
Ouais.
Justement.
Et alors, à partir de là, il y a eu une constatation de la production de ces phénomènes sans qu'on puisse en déceler l'origine.
Mais disons qu'il y a eu énormément d'études, il y a eu des hypothèses, mais pour l'instant, nous n'avons pas les réponses définitives. On a des théories, mais vraiment pas exactement à quoi attribuer ces phénomènes.
Mmh. Alors, vous dites on a des théories, c'est-à-dire que c'est la personne qui, de manière inconsciente et totalement involontaire, provoque ces phénomènes, sans même le vouloir, je le répète. Ça fait partie des théories ?
Oui, par exemple, oui. Mmh. L'action psychokinétique, donc...
De déplacer les objets à distance, hein, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Mmh. C'est une possibilité, parce qu'on sait qu'en laboratoire, on peut reproduire de tels phénomènes. Hein. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir des actions de psychokinèse, c'est-à-dire l'esprit sur la matière,
oui.
Et qui arrivent à, par exemple, influencer un générateur de nombres aléatoires, par exemple.
Mm-hmm.
Ça, c'est vraiment bien étudié et avéré.
Oui. Et alors, ça, c'est une des théories, mais il y a d'autres théories, évidemment. Qu'en est-il de la théorie du fantôme ?
Oui, alors, c'est ça. En général, on confond le phénomène lui-même et son interprétation.
Oui.
Donc, le phénomène, c'est par exemple une apparition lumineuse ou des bruits sans cause apparente ou des objets qui se brisent ou des portes qui claquent sans qu'il y ait du courant d'air.
Bon. Oui.
Ça, c'est le phénomène. Et puis, l'interprétation traditionnelle, ésotérique, si je puis dire, c'est qu'il s'agit du fantôme de l'oncle Ernest qui revient parce qu'il veut se venger, parce qu'on a mal exécuté ses dernières volontés, etc.
Mm.
Donc, ça, c'est l'interprétation habituelle. Mais, c'est une interprétation. Hein. Ce sont surtout les spirites qui ont... en général, diffuser ce genre d'interprétation.
Oui.
Mais maintenant, on essaye de trouver plutôt des réponses au niveau des êtres vivants,
oui.
Plutôt que chez les esprits des morts sur lesquels on ne connaît rien. Et voilà.
Mmh. Oui. Mais par exemple, il y a un cas d'une famille qui a fait construire une maison. Ça s'est passé en Angleterre. Vous le racontez dans votre livre.
Oui.
Et le couple habite dans la maison il y a des apparitions. Dans la maison, notamment un homme debout qui regarde par la fenêtre et qui regarde dans le jardin. La femme de maison le voit quand elle est dehors, elle le voit regarder par la fenêtre. Des scènes de bataille qui reviennent à la surface. Comment peut-on analyser ça, des scènes de bataille datant de l'époque romaine, si je me souviens bien ?
Oui, oui. C'est très complexe. Hein. C'est très complexe. Alors, il y a des hypothèses, par exemple, qui s'appellent la mémoire des pierres ou la mémoire des murs,
oui.
qui disent qu'il y a certains lieux ou qui enregistrent, en fait, les événements du passé.
Comme une bande magnétique, quoi.
Voilà, un peu. Bon, c'est une hypothèse oui. assez simplificatrice. En général, elle est très contestée. Mais ouais. disons que ça...
Grosso modo.
ça paraît se produire comme ça, par moment. Enfin, ouais. ce sont des cas très rares, hein, très rares.
Ouais.
Il y a eu, par exemple, des récits de batailles dans le ciel.
Oui, alors racontez-nous ce cas qui est absolument exceptionnel.
Disons qu'il y en a eu plusieurs. On a signalé plusieurs batailles célestes. C'était des batailles qui réapparaissaient au niveau du ciel. Il y a même des cas où on a pu reconnaître certains officiers qui participaient à la bataille.
Oui.
Enfin bon, ça c'est basé uniquement sur des témoignages.
Hein. Oui, ce sont des cas très anciens. Hein,
des cas anciens, oui.
Qui datent de quand ça ?
Il
y a plusieurs siècles, je crois, un siècle ou deux.
XVIIe,
voilà.
Oui, c'est des cas anciens.
Mm-hmm. Mais c'est-à-dire que des gens étant sur terre, les pieds au sol, en levant le nez au ciel, voyaient comme une espèce de projection, quoi,
voilà.
De la bataille qui s'était déroulée sur le lieu même il y a plusieurs années. Mais en tant que scientifique, parce que vous êtes scientifique, vous êtes diplômé en psychologie et en informatique, vous faites partie du comité directeur de l'Institut Métapsychique International qui est basé à Paris. Comment envisagez-vous ces cas ? Parce que c'est très particulier quand même comme domaine d'étude.
C'est très particulier et vous savez, en France, il n'y a aucun crédit pour ce domaine de recherche. Donc, moi, ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est de recenser un peu toutes les études qui avaient été faites jusqu'à présent.
Oui.
Mais en France, actuellement, il n'y a pas de recherche sur ce style de phénomène.
Mm-hmm.
Voilà, donc c'est un peu difficile. Et je dirais que le problème aussi avec ce genre de phénomène, c'est qu'il n'y a pas, comme en Allemagne par exemple, des organismes qui accueillent le public qui est confronté à ce style d'événements un peu perturbants.
D'ailleurs, vous consacrez un chapitre à ça. Que faire si jamais victime, non, mais témoin d'apparitions ou de phénomènes anormaux, paranormaux dans une maison?
Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'appels et on aimerait donc à l'Institut Métapsychique, on a un groupe d'étudiants qui essayent de monter un projet, notamment un étudiant très motivé qui va s'employer à le faire, je pense, puisqu'il fait un stage en Allemagne actuellement, car en Allemagne il y a à Fribourg, il y a deux organismes, l'un public et l'autre privé, qui s'occupent donc de l'accueil du public sur ce genre de choses.
Ouais.
Donc, on aimerait bien monter la même chose en France.
Là, tous les cas qui sont recensés dans votre livre sont relativement anciens. Je veux dire, il n'y en a pas qui se soient produits ces 5 dernières années, par exemple. Pourquoi ? Est-ce parce que il n'y a personne pour les recueillir et servir de réceptacle aux nouveaux cas ? Est-ce que, par exemple, en Allemagne, ils ont des cas régulièrement ?
Oui, très régulièrement. Hein, très régulièrement. Je pense que même Walter von Lucado, qui dirige donc le service public, parle d'un cas par semaine de poltergeist. Alors, c'est énorme, c'est énorme. Bon, maintenant, ce n'est pas un cas enquêté comme celui, par exemple, de Rosenheim, le cas le plus célèbre qui a été étudié par Hans Bender en 67. Mais... ce sont des cas où il y a beaucoup de manifestations quand même.
Oui. Rappelez-nous brièvement ce qu'est justement ce cas de Rosenheim en Bavière.
Alors, ça se passait dans l'étude d'un notaire. Et les phénomènes étaient centrés autour d'une jeune employée qui s'appelait Anne-Marie.
Oui.
Alors, c'était des choses tout à fait extravagantes. Hein. Il y avait des néons qui se déplaçaient, des lampes. Il y avait le tonnerre des photocopieuses qui sortaient, une armoire énorme qui a été déplacée.
Une armoire, là, il faut le dire, une armoire de notaire pleine de dossiers.
Ouais,
et Dieu sait si c'est
très,
lourd.
Très, très lourd.
Et qui s'est déplacé, qui a fait un bond, je crois. Hein.
Voilà. Enfin, un bond peut-être.
Oui,
je ne sais pas, mais qui a été déplacé.
Oui. Et ça a été photographié, ça a été filmé même, je crois. Hein.
Alors, on a un film sur un tableau. Qui tournait en fait, mais c'est très très curieux parce que quand on regarde le film, on a l'impression qu'il passe d'une position à l'autre l'espace d'une ou deux images, quoi. C'est très très bizarre.
Oui, et ça c'est des phénomènes qui ont été étudiés par des scientifiques et tout à fait encadrés.
Oui, là il n'y a pas de problème.
Oui, bon. Alors, peut-on employer finalement ce terme de croire lorsqu'on étudie comme vous des phénomènes d'apparition de maisons hantées ou de poltergeist?
Donc nous, notre problématique n'est pas de croire, c'est d'étudier, hein, d'étudier ce qui se passe.
Voilà.
Donc,
c'est là la grosse différence. Merci beaucoup en tout cas Pascal Catella, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je rappelle le titre de votre livre, donc « Apparitions et maisons hantées, réalité inquiétante ou fantasme », c'est aux presses du Châtelet. Merci et bonsoir Pascal Catella.
Bonsoir.
Croyez-vous qu'une maison hantée, cela puisse exister, même si le terme croire n'est peut-être pas le bon? Croyez-vous que les fantômes existent d'une part et puissent se manifester d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous avez vécu un phénomène d'apparition? Avez-vous vu quelqu'un qui ne pouvait pas être là au moment où vous l'avez vu? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous faire part d'une part de vos témoignages, si vous avez été témoin de ce genre de phénomène, ou tout simplement de vos questions. Appelez-nous pour nous dire, ben voilà, moi je pense que tout ça c'est qu'un tissu de mensonge, que ce n'est pas possible, ou alors nous dire pourquoi pas, effectivement ça peut effectivement exister. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour en discuter avec nous. Dans quelques minutes, nous allons avoir notre second spécialiste qui va venir nous rejoindre, Philippe Val. Corinne Bailey, Ray, put your records on sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Nous ouvrons le dossier des maisons hantées, des apparitions. Camille a été notre premier témoin de ce soir. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous donner votre opinion sur l'existence, peut-être, je ne sais pas, des fantômes, des apparitions et des maisons hantées. Évidemment, posez vos questions à notre spécialiste qui nous rejoint, Philippe Vallon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange. Je rappelle que vous êtes psychiatre de formation. Vous êtes, vous menez des études en collaboration avec l'INSERM, chargé de recherche à l'INSERM, qui est l'Institut scientifique d'études et de recherche médicale. Et vous avez d'ailleurs signé la préface de ce livre de Pascal Catala, Apparitions et maisons hantées, aux éditions Presse du Châtelet. Alors, pour vous, d'abord, en tant que spécialiste de ce genre de phénomène, est-ce que le phénomène que l'on catalogue dans le type de maison hantée est une réalité?
Alors, c'est très difficile à dire. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut être parfaitement scientifique, on peut dire que non. Dans la mesure où, si vous voulez, ça suppose, je dirais, un au-delà, ce qui n'est pour lequel on n'a absolument aucune preuve.
Oui.
Mais par ailleurs, le scientifique, dès qu'il cherche à être un petit peu ouvert, ne peut pas ignorer le paranormal, qui depuis les années 30 est, on pourrait dire, scientifiquement prouvé, dans la mesure où les statistiques avec Rhine, l'ont bien montré. Donc, si vous voulez, on ne peut pas ignorer complètement le paranormal, on ne peut pas ignorer non plus les multiples phénomènes, Rosenheim, etc., qui ont été abondamment observés par des scientifiques et qui ont permis donc de montrer qu'il y avait tout de même quelque chose. Mais d'ici à l'attribuer à l'au-delà, c'est-à-dire à des morts, même au diable, c'est une chose qui n'appartient pas au domaine scientifique.
Mmh.
Donc on peut dire que l'observation des phénomènes, on ne peut pas la nier. Par contre, l'interprétation est beaucoup plus sujette à caution.
Oui. Alors revenons sur ce cas qui a été extrêmement étudié, très documenté, celui de Rosenheim en Allemagne, hein, c'est ça?
Absolument.
Voilà. Et Dan-Marie Schneider, racontez-nous un petit peu d'abord les différents phénomènes qui se sont produits et qui ont été, je le rappelle encore, étudiés par des scientifiques.
Alors c'est d'abord Hans Bender, le professeur Hans Bender qui donc l'a étudié. C'est une jeune fille qui était secrétaire, qui est arrivée, je crois, à peu près vers 18-20 ans dans le cabinet d'un avocat qui s'appelait donc Maître Adam, et qui donc, peu après son arrivée, il y a des lampes qui sont mises à se balancer, des tubes néons qui se sont décrochés en tournant sur eux-mêmes, de l'encre de photocopieuse qui s'est renversée, des tiroirs qui sont ouverts ou fermés, et même des tableaux qui tournaient autour de leur axe.
Ouais.
Et à chaque fois que cette fille partait en vacances ou était absente, les phénomènes cessaient. Donc, on a finalement à appeler tout de même des inspecteurs, puisqu'en plus le téléphone était régulièrement sonné alors que personne n'appelait, et que par ailleurs l'horloge parlante était quelquefois appelée jusqu'à 50 fois coup sur coup, alors que personne dans le cabinet de l'avocat n'avait jamais appelé.
D'accord.
Alors, il y a des inspecteurs, des techniciens des télécoms qui sont arrivés, qui ont noté les anomalies du réseau. Ils ont branché des quantités d'appareils électroniques ou électriques et ont constaté que la cause des phénomènes n'appartenait pas au normal, si vous voulez, très schématiquement.
Oui, oui.
Alors, la science Bender est arrivée. Donc le professeur Hans Bender, et a regardé un petit peu en quoi ça consistait. Il s'est aperçu effectivement que les phénomènes étaient indéniables, et donc c'est lui qui a souligné le rôle de cette jeune fille, et l'a ensuite donc amené dans son laboratoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il ne pensait pas d'ailleurs, c'est que les phénomènes ont continué à se produire quasiment à la demande.
Ah bon ?
Oui, oui. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que donc il a reproduit l'expérience avec elle, mais il a dû arrêter un certain moment parce que cette fille devenait folle en se croyant le centre du monde. Et ses parents, d'ailleurs, s'y sont posés dans un bureau, c'était une fille qui était même pas très âgée, en disant que le professeur donc évoquait le diable au labo. Ce sont ses mots.
D'accord, oui. Oui, oui. Mais enfin, cela dit, on comprend que psychologiquement, ça puisse vraiment troubler, voire déstabiliser complètement.
Absolument. D'autant que là, les quelquefois, ce sont de simples rumeurs. Je veux dire, il y a eu un certain nombre de cas où finalement, dès que le scientifique est arrivé, plus rien ne s'est produit. Mais là, non seulement ça s'est poursuivi, mais il semble même que ça soit aggravé. C'est donc un cas tout de même qui restait dans les annales de l'histoire.
Ouais. Donc, ce qui veut dire que là, l'hypothèse la plus probable ou la plus plausible, c'est que il n'est pas question de fantômes ou d'au-delà, mais de cette jeune femme qui produisait elle-même de manière inconsciente les phénomènes.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle enfin un poltergeist, c'est-à-dire une production sauvage de phénomènes de l'ordre de la psychokinèse, sauvage et particulièrement importante.
Psychokinèse, c'est-à-dire déplacer les objets objet avec la force de l'esprit.
Psychokinèse, ça vient du grec, psycho, donc l'esprit, kinèse, bouger.
D'accord.
C'est donc le fait de pouvoir faire déplacer les objets avec l'esprit, et donc on peut même les faire se léviter. Jean-Pierre Girard, avec qui j'ai travaillé, donc, a été photographié à plusieurs reprises à ce sujet-là. Donc, je veux dire, la psychokinèse, c'est tous les événements, si vous voulez, où il y a un mouvement, souvent un mouvement de translation ou de rotation, et parfois, plus rarement, un mouvement d'élévation, donc ce qu'on appelle la lévitation.
Oui. Vous restez avec nous, Philippe Vallon. Dans quelques minutes, on va avoir un témoignage d'un homme qui, tout petit, a été témoin de phénomènes d'apparition. Il a vu des gens se promener dans un lieu et il était le seul à les voir. À tout de suite. Depuis toujours, le groupe Louise Attac, qui seront d'ailleurs bientôt en concert dans notre grand sud, les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio jusqu'à minuit, avec notre spécialiste qui est notre invité ce soir, Philippe Vallon, psychiatre et chargé de recherche à l'INSERM, qui est en notre compagnie. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Appelez, Cyril est là pour recevoir vos appels. Et ensuite, nous discuterons ensemble eh bien vos questions concernant les apparitions, les fantômes, les maisons hantées. Si vous avez été témoin de ce genre de phénomène, venez en parler avec nous et posez vos questions à Philippe Vallon. Et évidemment, vos questions également, même si vous n'avez pas vécu de phénomène, vous devez avoir sûrement plein de questions à poser. 0826 300 300. Philippe Vallon, nous allons accueillir ensemble, si vous le voulez bien, un premier témoignage. Il s'agit de John qui nous appelle du Boulou. Bonsoir John.
Oui, bonsoir.
Nous sommes entièrement à votre écoute. Alors vous, c'est une histoire que vous avez vécue quand vous étiez enfant, c'est ça ?
Oui, ça m'a causé vraiment beaucoup de problèmes à l'époque.
Ouais.
Et bon, j'ai pris un nombre de tardioles pas possible.
Ah bon ?
Non, mais bon, c'est pas grave. J'ai des parents extraordinaires, mais bon, ils pensaient que je mentais, et je vous jure que ça m'a toujours resté dans la tête, même 50 ans après.
Ouais.
Et souvent, j'ai lu des livres, et j'en ai dévoré des centaines pour essayer de comprendre. Mmh. Et toutes les images sont gravées dans ma tête, et je vois encore ces gens, et tout le monde me disait qu'il n'y avait personne.
Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose qui vous a, je dirais pas traumatisé, mais vraiment marqué, quoi.
Oui, marqué, même ça a été beaucoup plus loin, puisque je suis responsable un petit peu, à cause de cette histoire, du retour en France, parce que mes parents étaient français, mais mon père travaillait en Tunisie.
Oui.
Et bon, ça s'arrêtait pas, ça a duré 3-4 ans, et c'est vrai que vers l'âge de 7 ans, quand je suis arrivé en France, ça a complètement disparu. Hein.
D'accord. Alors, vous aviez quel âge, donc, au moment des faits ?
Alors, les premiers, ce que j'ai, c'est extraordinaire, parce que j'ai une mémoire extraordinaire de ces moments-là, peut-être pas d'autres choses, mais de ces moments-là, oui, ça a dû commencer vers les 4 ans, et je voyais ces gens, je leur parlais, et mes parents me demandaient, mais tout le monde, mais à qui tu parles ? Mais je disais, à la dame qui est en train de faire ça, ou monsieur, et qui passait, et tout ça. Et comme j'ai dit à votre collaborateur au téléphone, ce qui m'intriguait à cette époque-là, c'est que, si vous voulez, quel que soit l'obstacle qu'il y avait, la maison de mes parents est une maison dans le style... du coin, il y avait une cour au milieu de cette maison avec
patio,
un puits.
Oui.
Et les gens, le puits n'avait aucun problème. Ça c'était, ils passaient à travers. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'était toujours un petit peu ce sourire qui m'adressait.
Oui. Mais alors, racontez-nous un cas, par exemple, pour qu'on visualise, si j'ose dire.
Mais c'était bien continuellement. À chaque fois que j'allais dans cette cour, je voyais des gens faire des choses comme si nous, on n'existait pas, ou si l'immeuble où j'étais n'était pas là pour eux.
Oui. C'était des choses du quotidien qu'ils faisaient, par exemple, puiser de l'eau dans le puits.
Exactement. Je me rappelle encore cette dame qui lavait ce linge dans ce grand baquet en bois, là, et qui me regardait souvent, et qui, de temps en temps, me faisait un sourire, mais je sais... Bon, c'est vrai que la mémoire... J'ai une mémoire extraordinaire de ces moments-là, mais... Je pensais que c'était pour moi, quoi. Et à chaque fois que je le disais à ma mère, elle Elle me disait, mais non, il y a personne, puisque je suis là, je les verrai. Mais je dis, si, maman, je te promets que les gens là regardent le monsieur, regardent la dame qui passe et tout. Il y avait même on voyait vraiment que c'était une vie courante, comme si c'était... Écoutez, moi, personnellement, d'après ce que j'ai lu, parce que ça m'a donné une passion toute ma vie, ça m'est resté, vraiment, j'ai essayé de comprendre, et j'ai lu des centaines de livres, ça ressemblait plutôt, je sais pas, une fenêtre ouverte sur quelque chose, quoi. Bon, maintenant, attention, c'est mon interprétation personnelle.
Bien sûr,
hein.
Bien sûr. Dites-moi, vous rappelez ce film qu'on a vu avec notamment cet acteur américain Bruce Willis, qui est psychiatre et qui s'occupe d'un petit garçon qui voyait les gens décédés. Vous l'avez vu, ce film?
Ah oui, je l'ai trouvé extraordinaire, surtout la fin. Je vous avoue que ça fait
Alors dites-moi, John, est-ce que ça ressemblait à ça, ou alors vous aviez plutôt l'impression de voir une vie comme un monde parallèle?
Voilà, exactement, vous avez mis, j'osais pas trop le dire, j'en ai jamais parlé à personne, parce que les gens, bon, ou vous avez des sceptiques, ou des gens qui ricanent derrière en se disant, bon ben, le pauvre vieux.
Et puis vous en aviez marre de prendre des tartes aussi.
Quand j'étais petit, oui, mais j'ai toujours dit que je les voyais.
D'accord. Et alors, quand vous avez quitté ce lieu, donc la Tunisie, cette maison en Tunisie, vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, et là, fini.
Ah, complètement. Écoutez, complètement. Complètement, je me rappelle pas avoir vu une seule fois, ça m'avait même un peu marqué. J'étais un peu triste parce que mes parents travaillaient, ma mère était infirmière, mon père était transitaire.
Ouais.
Et donc j'étais toute la journée seul dans cette cour, et je me régalais à regarder. Quoi qu'il s'est passé quand même quelque chose d'un peu extraordinaire, que je voudrais quand même vous raconter.
Oui, allez-y.
Ma mère, quand elle partait quand même, il y avait en bas une dame, une du coin, une arabe, quoi, qui me surveillait, que j'aimais beaucoup.
Oui.
Et de temps en temps, elle s'absentait, elle me mettait, comme il y avait avant des parcs en bois, vous savez,
oui.
Pour pas que je m'éloigne. Et un jour, un serpent est rentré dans la cour, parce que bon, c'était, attention, ça, il y avait 50 ans.
Oui.
Et cette dame, elle a toujours dit à ma mère que elle avait pressenti ou quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule, et puis d'aller dans la cour, et quand elle a vu qu'il y avait le serpent, elle a appelé son mari qui lui a tué le serpent sur la place. Donc je vous dis pas les mois de le soir quand mes parents sont rentrés.
Oui, j'imagine.
Et je crois qu'il y avait une certaine peur du côté de mes parents. C'est ce qui leur a fait déménager et reprendre rentrer en France, quoi.
Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous raconter, c'est-à-dire que vous étiez dans ce parc en bois, comme on en faisait avant, un serpent est arrivé et...
Il est rentré dans le parc parce qu'il y avait des barreaux.
Voilà.
Il me menaçait, mais il paraît, d'après la dame qui s'occupait de moi, qui était une dame d'assez âgée, mais qui était merveilleuse, elle était d'une gentillesse. Et à l'époque, je comprenais un petit peu l'arabe. Donc, elle s'est mise à hurler. Son mari est venu. Il a pris un bâton. Il a commencé à taper.
Mais cette tape sur l'épaule qu'elle a eue et qui l'a prévenue, c'est peut-être un des personnages que vous voyiez comme ça.
Je crois, parce que à un moment, je voyais tous ces gens que j'avais l'habitude de voir. Je les voyais tous les jours.
Oui.
C'est peut-être une... J'en suis pas sûr que c'est un, mais...
John,
je crois que d'abord elle a eu la trouille de sa vie.
Ah oui, ça c'est clair. John,
surtout, ils sont très superstitieux là-bas.
John, juste une question de Philippe Vallon, notre spécialiste.
Oui, est-ce que vous reconnaissiez ces gens? Est-ce que certaines personnes ont pu vous donner des détails sur ces personnes? Est-ce que, si vous voulez, quand vous avez donné leur description, donc, est-ce qu'on a pu vous dire, ah oui, c'est Ahmed?
Non,
ou
pas
c'est...
du tout. C'est le problème, et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, mais je vous jure que ce qu'a dit une fenêtre ouverte sur quelque chose d'autre, je crois plutôt que ça se rapprocherait. Non, moi, les gens, je les reconnaissais, puisque il y a de temps en temps, je voyais, puisque ça durait pratiquement 2 ans, même un peu plus, j'avais presque l'habitude de les voir. Et ils vivaient vraiment là.
Et est-ce que ils semblaient appartenir à la même époque que vous, ou ils avaient des habits anciens?
Non, oui. D'après les descriptions que j'ai données des habits des femmes et des hommes, c'était pas trop l'époque. C'était un peu plus ancien.
Est-ce que vous avez pu avoir des confirmations, des gestes ou ce qu'ils ont pu faire? Est-ce que c'était des attitudes qu'on avait à l'époque, par exemple, ou des propos qu'on tenait à l'époque? Est-ce que la langue avait vieilli, par exemple?
Non, sincèrement, parce que au niveau... Ils ne me parlaient pas beaucoup. Moi, je leur parlais énormément. Hein.
Oui, mais...
Je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Et c'était toujours un sourire.
C'est ça, mais vous n'avez eu aucune confirmation
non.
des gestes ou des noms ou des attitudes ou des allures de ces personnes.
Non, mais par contre, on m'a dit qu'effectivement, parce qu'il y avait des gens qui se promenaient avec des grands bâtons et deux seaux, et que ça se faisait beaucoup avant pour l'eau. Parce qu'à l'époque que j'étais, il y avait quand même des robinets dans le
oui,
bâtiment.
Oui, d'accord.
Et ce sont des gens qui auraient pu, en fait, un siècle ou deux avant, être dans cette cour-là.
Ça se pourrait. Si j'en étais sûr, je serais content, parce que c'est vrai que cette histoire m'a toujours.
C'est ça. Vos visions ne paraissaient pas invraisemblables.
Ah non, je peux vous dire, et je vois encore même les visages, même actuellement, 50 ans ou 55 ans après.
En tout cas, vous en parlez avec beaucoup d'émotion, hein. On sent que c'est quelque chose qui vous a vraiment profondément touché.
Ben oui, puisque ça a quand même bouleversé ma vie, hein. Normalement, mon père avait un métier qui gagnait bien sa vie là-bas, ma mère avait son
ouais.
métier d'infirmière,
ouais, ouais.
et ça marchait bien, mais je crois qu'ils ont vraiment eu peur. Ils pensaient, vous savez, c'est un peu spécial, parce que à l'époque, et surtout dans ces coins-là, on parlait beaucoup d'envoûtement, je sais pas si vous comprenez.
Oui, il y avait beaucoup de superstitions, bien sûr.
Oh là
bien
là.
Sûr. Oui, oui.
Mais personne n'a pu reconnaître des défunts, comme quelquefois on dit, ah oui, c'est l'oncle Alfred ou.
Non, personnellement, ça. Mais par contre, ils ont fait venir des marabouts à l'époque, ils ont égorgé des coqs et tout, ils pensaient plutôt, mes parents et les voisins, quand je leur racontais ça, d'abord ils avaient un petit peu peur de moi. Et ils pensaient surtout...
Que vous étiez possédé, quoi.
Voilà. Vous avez dit le mot exactement.
Oui.
Alors que c'était pas du tout. J'étais très conscient. J'étais même content, puisque, comme je vous disais avant, j'étais souvent seul l'après-midi, parce que le matin, bon, le temps qu'on s'occupe de moi et tout...
Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être un peu dans une forme de rêverie? C'est un peu comme si l'ambiance changeait au moment où les apparitions se faisaient?
Non, c'est pour moi, ça paraissait naturel.
Oui.
Je voyais ces gens vivre, mais ce qui m'a toujours étonné, c'était ce puits. Et pour eux, il n'existait pas ce puits. C'était extraordinaire.
Le puits n'existait pas pour eux.
Non, sincèrement, non.
Est-ce que vous avez su la date de creusement du puits?
Écoutez,
c'est
maintenant que vous me le demandez, j'aurais pu m'enseigner, non, sincèrement, c'est une chose qui ne m'est jamais venue à l'idée.
Ça aurait pu permettre de dater la vision, parce que vous savez qu'il y a certaines personnes, en particulier de femmes anglaises, qui sont arrivées au château de Versailles un jour, et puis elles ont vu des quantités de personnages qui semblaient être de l'époque de Louis XIV ou de l'Empire, je ne m'en rappelle plus exactement, et ensuite elles ont relaté ça à des historiens qui ont reconnu les personnages et qui ont dit, oui, c'était Murat ou des gens de cet endroit.
Oui, je
comprends.
Donc,
des personnes extérieures ont pu identifier les...
Vous voyez, j'étais pas à Versailles, donc les gens ne devaient pas être très connus.
Oui, c'était des gens simples qui vivaient là.
Ah,
quoi,
vraiment, mais on voyait vraiment qu'ils vivaient là. Même si c'est toute une ambiance, vous savez, en Afrique du Nord, à cette époque-là, les gens vivaient beaucoup dans la rue. Ils se parlaient beaucoup plus. C'était cette ambiance-là que je retrouvais.
Mais j'imagine, John, que quand vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, donc... Hein,
oui, à peu près, entre 6 ans et demi, 7 ans.
Ouais, et que ces phénomènes se sont arrêtés.
Oui.
Il y a dû y avoir comme un vide, j'imagine, non?
Ah, ça me manquait beaucoup, oui, oh là là, beaucoup, oui.
Oui,
oui je me demandais où ils étaient passés, tous ces gens, et quand j'en parlais à mes parents, ils m'ont toujours dit que ça n'existait pas, c'était dans ma tête, quoi.
Et est-ce que vous avez l'impression, justement, quand vous êtes arrivé en France, d'une forme, je dirais que vous n'étiez pas passé à l'âge adulte, bien sûr, à 7 ans, c'était un peu tôt.
Ah, si, parce que ça a été très difficile. Alors, hein.
Vous aviez l'impression, finalement, d'arriver dans un monde desséché.
Ah, complètement. Oui. Complètement, un manque de chaleur terrible.
Oui. Parce que vous savez, beaucoup de personnes relatent avoir vu dans les 3 premières années de l'enfance des personnes, des personnages, quelquefois d'ailleurs identifiés, et que le phénomène a disparu finalement assez précocement. 7 ans, je dirais que c'est presque tardif, vous voyez, c'est...
Oui, surtout que ça a duré longtemps, et je me rappelle de scènes incroyables, de scènes de vie et tout ça. Mais ce qui m'étonne en y réfléchissant avec tout ce que j'ai lu actuellement, c'est ce sourire en guérite qui me voyait. Et ça, c'était, je crois que c'est le plus étonnant.
Parce que, on a
c'est une impression, hein, je vous dis, c'est une impression qui me voyait, mais bon.
En vous écoutant, on a presque l'impression d'une reconstitution d'un film historique. Vous voyez,
exactement.
Quelque chose.
Exactement, ils étaient pour moi, ils étaient là, ils, oui. étaient, mais, ils étaient en chair et en os. Et...
C'est ça. Mais ils ne voulaient pas particulièrement apporter de message, parce que quelquefois on voit
non.
les apparitions qui véhiculent un message et qui disparaissent quand le message
non,
a été...
Non, c'est comme si je voyais des gens vivre.
Oui, vous étiez un témoin, quoi, tout simplement.
Un témoin, voilà, exactement ouais. un témoin.
Mais en qui... revanche, ils vous voyaient des fois, puisqu'ils vous adressaient un sourire.
Oui, souvent, même un petit signe de main.
D'accord. Merci beaucoup, John, en tout cas, pour ce témoignage tout à fait intéressant et passionnant. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur.
Au revoir, John.
Au revoir.
Philippe Vallon, un témoignage tout à fait étonnant, comme si c'était une fenêtre ouverte sur un ailleurs.
Oui. Alors, donc, la question qui se pose, enfin, je veux dire, il ne faut pas réduire ça aux sciences, parce que les sciences paraissent souvent un petit peu froides et dures par rapport à ce genre de choses
ouais.
qui reflètent toute la magie de l'enfance. Bon. Mais le psychiatre, quand il entend ça, il pense à rêverie. C'est-à-dire,
ouais.
on a l'impression qu'en fait, la personne est ouverte sur son inconscient et ne fait pas finalement tellement la différence entre le jour et la nuit.
Mmh,
vous voyez,
mmh,
vous avez quelquefois des rêves ou même des cauchemars qui vous ramènent à une période antérieure, quelquefois avec des détails d'ailleurs hallucinants. Et ce qui est intéressant, et ce que je demande à toutes les personnes qui ont des apparitions, c'est est-ce que vous avez pu ensuite, en demandant à des tierces personnes, avoir confirmation de l'attitude des gens, éventuellement en relatant des éléments précis de leur physionomie, de leurs vêtements, etc.,
ouais, ouais.
éventuellement retrouver les noms de ces personnes.
Mm-hmm.
Et j'ai eu le cas assez souvent, je dois dire, et là on peut dire qu'il y a tout de même quelquefois, je dirais, on ne va pas dire une preuve, mais quelque chose qui est assez étrange, surtout quand la personne qui raconte, c'est l'enfant qui raconte, c'est souvent un enfant, ne connaissait pas ces gens.
Ouais.
Vous voyez
mm-hmm. Philippe Vallon, une pause encore, et ensuite Séverine viendra nous rejoindre. Elle a vécu une expérience plutôt difficile avec ce qu'elle appelle un fantôme. Elle nous racontera ça dans quelques minutes. Si vous avez été témoin, vous aussi, de phénomènes concernant les apparitions, les maisons hantées, les fantômes, entre guillemets, votre témoignage évidemment nous intéresse au 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit dans Les Aventuriers de l'étrange. Mais si vous avez des questions également, parce que j'imagine que en nous écoutant, vous devez vous dire quand même, mais attendez, j'ai pas mal de questions qui me viennent à l'esprit. N'hésitez pas, 0826 300 300. Philippe Vallon est à mes côtés pour pouvoir y répondre. À tout de suite. Zucchero, Baila, Morena sur Sud Radio, extrait de la bande originale du film Les Bronzes Étroits qui a dépassé allègrement les 10 millions de spectateurs. Les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit en compagnie de notre spécialiste Philippe Vallon qui est en notre compagnie. Et Philippe Vallon, je vous propose que l'on accueille tout de suite au 0826 300 300 Séverine qui nous appelle de Montpellier. Séverine, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Qu'avez-vous vécu, vous ?
Alors, voilà, moi, c'est la première fois que j'en parle.
Oui.
Voilà, je téléphone parce que souvent, dans ce type d'émission, il y a quelque chose qui m'énerve.
Mm-hmm.
C'est que souvent, les gens témoignent de contacts avec des gens de leur famille, grand-mère, grand-père.
Ce qui peut arriver, du reste. Enfin,
voilà, ça peut arriver.
Pourquoi
mais enfin,
pas,
moi,
ouais.
je trouve ça très naïf.
Mm-hmm.
Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été agressée chez moi par un esprit.
Oui.
Ou un fantôme,
mm-hmm.
je sais pas trop comment appeler ça, mais enfin
un
homme.
C'est un esprit pour le moment, oui.
Voilà,
mm-hmm.
enfin, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, j'ai senti que c'était un homme, si vous voulez.
D'accord.
Donc c'est apparu chez moi, c'est vrai que moi j'ai eu une période de difficultés psychologiques, on va dire j'étais un peu dépressive,
mm-hmm.
et finalement c'est apparu chez moi, mais moi je ne l'ai pas vu, si vous voulez, je ne vois pas. Mais par contre, je le sens. C'est-à-dire, j'ai été agressée pendant que je dormais.
D'accord.
Donc, j'ai senti qu'on m'agressait.
Au moment, d'abord, ça remonte à combien de temps à peu près c'est,
alors, ça
c'est
remonte
fait
déjà à 4 ans.
D'accord. Donc, vous habitiez une maison, un appartement.
J'habitais un appartement.
D'accord.
En mmh. centre-ville.
Oui.
Tout à fait moderne.
Classique.
Voilà, ah. moi-même, j'ai 28 ans.
D'accord.
Donc,
ouais, ouais.
Voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu, si vous voulez, des aventures un peu comme ça avec les défunts.
Mmh.
Ça m'était déjà arrivé deux fois d'avoir des contacts avec des personnes décédées.
Sous quelle forme, comment, de quelle manière?
De manière télépathique.
Oui, c'est-à-dire que vous entendiez, enfin, ils vous parlaient,
oui,
vous avez
oui.
eu...
Oui, oui, oui.
Mm-hmm.
En général, le lendemain de leur décès ou quelques jours après.
Ouais. Et des proches?
Alors, pas des proches, non, des personnes... Enfin, la première fois, c'était une personne que je connaissais.
Oui.
Et la deuxième fois, c'était à l'étranger. Alors, vraiment, d'une manière tout à fait impromptue, dans le jardin d'une villa. Enfin, j'ai entendu quelqu'un qui chantait. Et j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé qui était cet homme qui chantait. Voilà, j'entendais un homme chanter.
En quelle langue vous l'avez pu lire?
Dans une langue étrangère, c'était au Québec.
D'accord.
Donc voilà, donc ça, j'en ai témoigné à mes parents.
Ouais.
C'est-à-dire en revenant, hein, comme ça, très, très naïvement.
Oui, comme une anecdote, quoi. Oui, oui.
Voilà, voilà, ouais. L'anecdote. Et évidemment, ma famille ne m'a jamais tellement cru. Hein,
ouais.
Voilà.
La première fois, c'était quoi? C'était pareil, comme ça, vous vaquiez à une occupation et vous avez entendu quelque chose?
Non, alors la première fois, c'était j'étais garde malade.
Oui.
Donc la personne que je gardais est décédée.
Donc vous la connaissiez bien, quoi.
Voilà, donc ouais. je m'étais occupée d'elle.
Mm.
Et le lendemain de son décès, j'ai entendu, bon, ce sont des murmures, hein.
Oui.
Ce sont pas des voix très fortes, mais enfin là j'ai entendu un murmure qui me disait que, enfin qui m'a appelé par mon prénom.
Oui.
Et elle m'a dit qu'elle était bien, qu'elle se sentait bien. Voilà.
D'accord.
Là où elle était.
Et ça vous est arrivé, vous étiez en train de faire quoi, de travailler, de...
Non, j'étais assise sur mon canapé.
Oui, tranquille.
En train de regarder la télé, oui, oui. Et j'ai eu la sensation qu'il se passait quelque chose. Je sais pas d'où ça me vient cette perception.
Mmh.
Et j'ai baissé le son de la télévision.
Ouais.
Et j'ai entendu ce murmure dans la pièce où j'étais.
Vous l'avez senti physiquement d'abord?
C'est-à-dire, je perçois qu'il y a un changement. Je ne peux pas le qualifier.
Ouais.
Je perçois qu'il se passe quelque chose, que je dois être attentive.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Et à ce moment-là, vous avez baissé le son de la télé.
Voilà.
Et vous avez entendu ce murmure. Ça a été court, ça a été long.
Oui, très court. Oui, en une phrase. Oui.
D'accord. Et après, fini, plus rien.
Après, terminé.
D'accord.
Voilà.
Ok. Alors, venons-en donc à ce pourquoi vous nous avez appelé, donc qui s'est déroulé une nuit, si je comprends bien, pendant que vous dormiez, oui.
Donc, pendant que je dormais, donc, j'ai été agressée physiquement. J'ai ressenti une douleur très intense au niveau de mon corps. Donc, j'ai tenté d'allumer la lumière,
mm-hmm.
que je dormais en noir.
Ouais.
Et l'ampoule a sauté. Et moi, j'étais vraiment dans un état, je me suis sentie vraiment agressée. Donc, je me suis levée à tâtons dans le noir. Je suis allée dans mon couloir et j'ai allumé ma lumière dans mon couloir.
Oui.
Et j'avais la sensation qu'il y avait quelqu'un, quelque chose chez moi.
Une présence, quoi.
Une présence.
Oui.
Donc j'ai passé une nuit épouvantable, je n'ai plus pu dormir, j'ai attendu le matin. Et le matin, j'ai téléphoné donc à mes parents, qui habitent pas très loin de chez moi.
Mmh.
Et j'expliquais ce qu'il se passait chez moi ou les sensations que j'avais.
Oui.
Et heureusement, mes parents qui ne m'ont jamais cru jusqu'à présent, ce jour-là, ma mère... m'a dit, écoute, sors de chez toi, va chez ton père. Sors de chez toi, va chez ton père. Donc je me suis habillée, je suis sortie de chez moi. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais dans le couloir, j'ai eu une voix dans la tête qui me disait, non, 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 ne pars pas, ne pars pas. Une voix d'homme.
Oui.
Donc je suis sortie de chez moi, dans un état, j'étais complètement bouleversée.
Choquée.
Complètement choquée. J'ai pris ma voiture. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je pensais que j'étais folle, que je devenais folle.
Ouais.
Et je suis arrivée donc chez mon père. Et là, j'ai parlé donc à mon père de ce qui se passait. Et mon père a dit, bon, écoute, tu vas rester là, tu vas te reposer un petit peu, puis ça va passer. Puis j'ai commencé à ressentir des douleurs, mais terribles, physiques.
Ouais.
Des brûlures dans mon corps. J'ai eu des souffrances épouvantables. Ça m'a duré toute la nuit. J'ai eu l'impression d'être agressée par deux personnages. Mon père était à côté de moi. Il voyait ma souffrance, mais lui ne percevait rien, puisque matériellement, on ne voit rien.
D'accord.
Mais moi, je sentais tout dans mon corps, avec des espèces de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que le problème, c'est que quand j'essaye d'expliquer ça, même à ma famille, ou même à la personne qui a essayé de m'aider, j'ai un problème de vocabulaire.
Oui, 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 vous ne réussissez pas à trouver les mots qui peuvent traduire ce que vous avez ressenti
physiquement. Moi, j'ai eu l'impression d'être pénétrée par des fluides. Vous voyez, des fluides sur tout le corps, dans tout le corps.
Ouais.
Et c'était comme des brûlures. Donc, on a essayé de se contacter en 24 heures. Ça s'est passé, si vous voulez, entre 24 et 36 heures.
D'accord.
Là.
Ouais, ouais.
Et on a essayé de contacter l'archevêché de la région.
Oui.
L'archevêché nous a très mal reçus. Donc ça, je tiens à le signaler. C'est-à-dire que l'Église catholique, apparemment, ça ne les intéresse pas. Ce genre de choses-là.
Ouais.
La personne qui était rentrée en contact avec moi, pour moi, c'était un homme de 50 ans, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui voulait absolument s'incarner, ou s'incorporer, ou prendre la place. voyez. Oui, donc j'avais l'impression d'être de devenir double.
C'est comme ça que vous le traduisiez. Oui, d'accord.
Voilà, donc je me disais, ça y est, je vais mourir. Enfin, moi, j'avais l'impression que j'allais mourir ou je ne sais pas où devenir folle. J'en savais rien.
Oui.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un couvent.
Oui.
Dans la région, on a trouvé un couvent. Parce que on s'est dit, enfin mes parents se sont dit, on va la mettre dans un couvent ou dans un où il y a des gens qui prient.
Oui.
Et après on verra. Donc je me suis retrouvée dans un couvent.
C'était pas Cotignac par hasard.
Je peux pas vous dire, c'est une période tellement trouble pour moi.
Ouais.
Tellement difficile. Je me croyais perdue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mm-hmm. J'étais la proie d'une agression.
Ouais.
Physique. Et je ne savais pas comment m'en sortir. L'angoisse que j'avais, c'est que je me disais, sur 6 milliards d'êtres humains, cet être, cet
il a fallu que ça tombe sur moi, quoi. Moi. Ouais, il a fallu que ça tombe sur moi, quoi.
Et voilà, il a fallu que ça tombe sur moi. Donc, je me suis retrouvée dans un couvent ou dans un lieu, dans un monastère,
mm-hmm.
et je me suis fait agresser la première nuit. D'ailleurs, j'ai dormi, la première nuit, je me suis fait agresser, et puis d'un seul coup, ça a passé. Ça a disparu, c'est-à-dire c'est parti, c'est sorti de mon corps, je ne sais pas comment dire.
Oui.
Enfin, apparemment, ce n'était pas le bon lieu pour cet être ou cet esprit.
Oui.
Donc, tout le temps de mon séjour, j'ai pu enfin me reposer, c'est-à-dire au moins dormir, parce que je ne pouvais plus dormir.
Oui, j'étais
agressée tout le temps, à la journée, la nuit.
Et ça a duré combien de temps, ça, cette période-là?
C'était il y a 4 ans.
Non, mais combien de temps en tout? Ça a duré un jour, deux jours, trois jours,
ça quatre duré, jours ça a duré... Alors, jusqu'au couvent. Alors, j'ai eu la paix au couvent, j'y suis restée 5 jours.
Mmh.
J'ai eu la paix pendant 5 jours. Je suis revenue chez moi, ça a recommencé.
D'accord.
Donc, il était là, il était dans mon appartement.
Ouais, ouais.
Si je partais de chez moi, il m'est arrivé de partir de chez moi, de dormir dehors dans ma voiture, il venait. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu. C'est-à-dire que chez moi, je ne le voyais pas, mais une fois dehors, il m'est arrivé, c'était l'été. Donc, une fois j'ai pris ma voiture, j'ai fui. Et je l'ai vu arriver vers ma voiture, comme un feu follet, si vous voulez.
Mm-hmm.
Vous voyez?
Oui.
Mais alors, surtout, ce qui me reste, c'est la douleur physique. La douleur physique et l'impossibilité de m'en débarrasser.
Mm.
C'est-à-dire que moi, cet individu, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tutoyé.
Ouais.
J'ai essayé de lui demander son prénom. Il a toujours refusé de me le donner. Par contre, il s'est excusé un jour. Un jour, il s'est excusé. J'ai entendu qu'il s'excusait. Si vous voulez, moi, je communique télépathiquement. Je communiquais télépathiquement avec lui.
Mmh. Voilà. Séverine, si je puis me permettre une question qui va peut-être vous paraître déplacée, mais les auditeurs qui nous écoutent se la posent également, et on a dû vous la poser aussi, évidemment. Est-ce que vous avez envisagé de consulter un psychiatre, peut-être?
Non. Alors, je vais vous dire. Nous, ça fait 4 ans qu'on est dessus.
Ouais.
Moi, j'ai contacté, donc j'ai quand même, on a fini par trouver un archevêque qui s'occupe de ça.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit tout de suite, mais c'est très banal ce qui vous arrive. Ça nous arrive tout le temps.
C'était pas menton, cet archevêque, non.
Non, mais je veux dire, il a fait un travail sur moi. Il a fait un travail sur moi et tout de suite, j'ai eu une amélioration.
Ouais.
Physique d'abord, ce qui était vraiment le
plus important,
le plus urgent.
Ouais.
Physiquement, de pouvoir dormir, mm-hmm. que je puisse dormir, mm-hmm. sans être agressé. Réussi à faire fuir cet individu.
Ouais.
Et d'ailleurs, il nous a dit dès le départ, mais moi je vais m'en occuper. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas exactement comment ça marche. Moi je ne suis pas scientifique, j'en sais rien. Toujours est-il que...
Ça a fonctionné?
Ça a fonctionné, et on a mis 4 ans.
Ah, quand même.
4 ans.
Et cet archevêque n'était pas un archevêque de religion orthodoxe, j'allais dire.
Si, c'est pas l'église catholique exactement.
C'est pas l'église romane, quoi.
Voilà.
Ouais.
Mais c'est quand même...
C'est un archevêque, parce que vous savez que dans l'église catholique romaine, il y a le pape, des archevêques et des évêques, donc toute une hiérarchie qui est très standardisée, j'ai dire, et auquel on ne peut pas toucher.
Mm.
Dans l'église orthodoxe, vous savez qu'il y a un certain nombre d'églises différentes, et ceux qui se prétendent archevêques ne le sont pas toujours. Ils ne sont pas reconnus forcément par les autorités religieuses.
Mais il est reconnu, celui-là.
Oui.
Il est reconnu.
Mm.
Donc.
C'est pas Monseigneur Schaffner, par hasard?
Non.
Non,
non. Non.
Et donc là maintenant, ça y est, enfin là c'est vous êtes tranquille.
Et si vous voulez, je vis. Je suis tellement heureuse de vivre.
Ah oui, ça
je me
doute.
Que, voilà, moi je pense que j'ai failli mourir. Hein. Pour moi, j'ai failli mourir.
Mm.
Et voilà, ce que je voudrais dire, c'est que quand ça arrive, si vous voulez, on n'en est plus au terme de croire ou de ne pas croire. Ce qu'on veut, c'est vivre. Moi, je voulais vivre.
Oui, il y a comme la survie, tout simplement.
Voilà,
quoi.
C'est la survie. Moi, il fallait que je survive. J'ai eu un réflexe animal. Moi, je me rappelle d'une fois où j'ai eu un réflexe animal dans mon corps. C'est-à-dire, je venais près de mon lit et j'ai eu la sensation qu'il était là devant. Et j'ai eu un réflexe animal dans mon ventre. J'ai eu tellement peur. Vraiment, je suis partie en courant de chez moi.
Ouais, ouais, ouais.
Je m'en rappellerai toute ma vie de ça, si vous voulez.
Et vous n'avez jamais eu, par ailleurs, de crise d'angoisse avec ce genre de sensation, mais sans avoir l'impression qu'il y avait une personne, j'allais dire réelle, on pourrait dire, entre guillemets, à côté de vous. Non,
non, non. D'ailleurs, je précise que je suis artiste.
Mm-hmm.
Donc, si vous voulez, voilà, j'ai une hypersensibilité.
Ouais.
Même avec les individus, même avec des personnes que je rencontre dans ma vie, ce genre de communication télépathique-là, enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé avec des personnes vivantes. Hein.
Mais personne ne vous a parlé de manifestation de l'inconscient. Vous savez, quelquefois, les choses qui viennent de nos profondeurs se manifestent comme si elles étaient extérieures. C'est une des caractéristiques de l'inconscient. D'ailleurs, toutes les visions, vous voyez, de la Vierge Marie, des saints, des morts, etc., se présentent toujours comme étant extérieures, alors que quelquefois, on a l'impression qu'elles sont aussi peut-être un petit peu intérieures. Vous voyez, une sorte de mélange. Vous n'avez pas eu cette impression-là. C'était toujours très, très, très extérieur.
Oui, mais enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait sous la forme d'un homme de 50 ans, pas très fut-fut en plus, vous voyez, je veux dire, psychologiquement, c'était quelqu'un qui était quand même limité. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, il avait l'impression qu'il ne pouvait pas me suivre en dehors de l'appartement, alors qu'il a pu me suivre en dehors de l'appartement. Vous voyez, des choses comme ça, donc qui m'ont permis, moi d'ailleurs, de mettre en place une stratégie pour pouvoir y échapper, puisque, si vous voulez, il y avait une emprise psychologique sur moi.
Oui, vous jouiez au chat et à la souris, quoi.
Voilà, il fallait, moi, que je survive. Et ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est qu'il faut dire aux gens de ne pas rester seul avec ça, parce qu'effectivement, on n'en parle pas. Moi, j'en parle à personne, mais jamais j'en parlerai à personne.
Ouais.
Il n'y a que dans ma famille qu'on est au courant, et puis c'est tout. Et même dans ma famille, ça a causé des problèmes, parce que il y a des frayeurs, hein.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens ne restent pas seuls, qu'ils en parlent à des gens de leur famille, qu'ils essayent de contacter l'archevêché.
Mais peut-être aussi un médecin, je veux dire, les médecins.
Oui, ou un médecin, mais enfin, un médecin, il ne va pas tellement comprendre, si vous voulez, ce genre de choses. Moi,
j'en suis plus à
m'adresser à des scientifiques ou je ne sais quoi.
Les médecins sont de plus en plus ouverts, vous savez.
Ils sont de plus en plus ouverts. Vous savez, moi, je suis artiste. Le rationalisme et tout ça, bon, ça ne m'a jamais tellement transporté.
Séverine, en tout cas, là, maintenant, vous êtes sortie d'affaires, si j'ose dire.
Je suis sortie d'affaires et je suis heureuse de pouvoir vivre. Et par exemple, dans cette même période, j'ai eu un contact avec ma tante décédée.
Oui.
Donc, si vous voulez, voilà, donc je ne peux pas dire que ce soit seulement une traduction de mon inconscient ou je ne sais quoi. Vous voyez ?
Ouais.
Maintenant, j'en suis sortie, j'en suis très très contente, très très heureuse.
J'imagine.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, quand on leur parle de fantômes, vous savez, ils ont toujours peur qu'on les voie en train de faire des choses, vous voyez, pas très. Voilà, ils veulent être seuls, intimes. Hein.
Le message surtout, c'est demander de l'aide.
C'est demander de l'aide et ne pas perdre de temps, surtout, ou par exemple pour les personnes qui sont sensibles comme moi ou comme la dame de tout à l'heure, d'essayer de faire un travail ou de trouver quelqu'un qui va faire un travail pour les, si vous voulez, pour les renforcer. Alors, d'un point de vue des énergies, moi je parle d'énergie parce que je n'ai pas d'autres mots, mais quand on est psy par exemple, on renforce son moi. Hein,
Madame, petite question, est-ce que cet archevêque vous a demandé très cher pour faire ce travail? On n'a pas besoin de savoir la somme, bien évidemment, mais est-ce que c'était très coûteux ou il vous a demandé ça pour rien? Il vous a proposé de faire
non,
ça pour
non,
rien?
Non, il y a une somme d'argent, puisque ça dure plusieurs, il y a plusieurs séances, plusieurs séances, ça a duré plus d'un an.
Mais est-ce que vous avez donc dû dépenser des sommes importantes pour ça?
Je ne peux pas vous dire, moi, pour nous, l'important, c'était que j'en sorte.
Parce que
j'en sorte.
Ouais.
Et pas que j'aille dans un hôpital psychiatrique, si vous
bien
voulez.
Sûr,
l'hôpital psychiatrique ne va pas soigner, si vous voulez, les problèmes au niveau des douleurs physiques. Hein.
Ouais.
Et les médicaments, ma foi, ça ne change rien à ce niveau-là. Moi, pour moi, si vous voulez, c'est pas le problème de savoir folie, pas folie. Le problème était d'en sortir.
Ouais.
Voilà.
En tout cas, merci Séverine d'avoir eu le courage de nous apporter ce témoignage. Et puis, surtout, ceux et celles qui vous écoutent vivent ça ou ont vécu ça, surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Et Philippe Vallon, les médecins sont de plus en plus ouverts, j'imagine.
Oui, ils sont de plus en plus ouverts, d'abord parce que les gens commencent à en parler, ensuite parce que, je dirais, des personnes de plus en plus, je dirais, tout venant, on va dire, consultent des psychiatres, alors qu'avant, c'était effectivement des gens qui présentaient des lourdes pathologies. Mmh. Maintenant, je dirais, un chef d'entreprise, un avocat, même un autre médecin ne va pas hésiter à consulter. Donc, on a des témoignages de plus en plus variés. Et puis, chemin faisant, quand les gens sont un peu en confiance, eh bien, ils racontent des histoires parfois assez étonnantes. Mmh. Donc, l'histoire de Séverine, comme celle de John, finalement sont banales. Et j'ai un collègue, un confrère, un médecin qui s'est adressé à moi, d'ailleurs je n'ai à vous dire jamais vu, je ne l'ai eu qu'au téléphone, et qui m'a raconté des histoires tout à fait extraordinaires, des gens, je dirais, qui ont pignon sur rue, vous voyez. Ouais. Donc il ne faut pas croire que ce sont uniquement des gens inintelligents, voire moitié fous, qui racontent ce genre de choses. Ouais. Je veux dire, il faut vraiment dédramatiser.
En revanche, là il faut absolument dire également que si quelqu'un dans ce cas-là veut vous aider en vous demandant une forte somme, il y a quand même forte suspicion quand même. Voilà. Hein.
Alors là, je suis très très prudent, parce que moi je ne m'adresse qu'à l'Église catholique romaine, d'abord parce qu'en principe elle ne demande rien, et ensuite parce qu'il y a ce qu'on appelle une filiation sacerdotale, des gens qui ont finalement assuré la garantie de la probité, de la moralité de la personne, et on est sûr à qui on s'adresse.
Peut-être de tomber sur quelqu'un d'honnête, quoi.
Voilà, on ne va pas forcément être très bien reçu, parce qu'il ne faut tout de même pas rêver, mais on sait tout de même qu'il y a une autorité au-dessus qui est là pour veiller.
Ouais.
Par contre, quand on parle de l'Église orthodoxe, et je connais suffisamment les orthodoxes pour pouvoir le dire, ils sont très suspicieux par rapport à ces gens qui se disent archevêques ou même primats, vous voyez, et qui en fait ne représentent rien du tout qu'eux-mêmes.
Ouais.
Et parfois, d'ailleurs j'en ai vu, demander des sommes absolument catastrophiques. Mmh. Surtout que souvent ils vous disent « Ah oui, mais attention, si vous vivez ça, c'est que vous êtes envoûté. » Et donc si vous êtes envoûté, il faut un désenvoûtement. Un désenvoûtement, c'est de long, enfin, je sais pas, enfin, je vais vous donner un chiffre.
Il faut 5000 euros, quoi, pour les frais.
Là, vous êtes très largement sous du chiffre.
Ah oui.
Ça peut être quasiment jusqu'au prix d'une maison, même à la limite d'un château. Je dirais qu'on peut le ruiner complètement. Ah oui. Et les gens continuent à payer parce qu'ils ont l'impression que ça va recommencer s'ils ne payent pas. Mmh. Vous voyez, il y a une espèce de, je dirais, de, on ne va pas dire de syndrome de Stockholm, mais enfin quelque chose où les gens coopèrent, j'allais dire, avec la personne qui profite d'eux.
Donc, l'escroc profite de la faiblesse de celui qu'il a en face.
Absolument.
Qu'il est en détresse.
C'est ça, mais souvent d'ailleurs avec une forme d'acceptation trop facile. Donc il faut quand même garder son sens critique. L'autre chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas de véritable différence de séparation entre le normal et le pathologique. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on dit d'un côté il y a le malade mental, l'autre côté il y a le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que d'un côté il y a personne qui ne verra jamais de fantôme, l'autre qui sera halluciné, schizophrène, etc., au dernier degré, et entre ces deux pôles, des quantités de variations possibles, avec des personnes qui vont voir, qui vont avoir des sensations de parfums, de choses qui leur rappelleront des défunts, même quelquefois souvent des enfants qui sont décédés prématurément, et ces choses sont là finalement, pour moi, sont des productions de l'inconscient, mais pour ces personnes, ce sont des présences.
Ouais.
Et je me garde toujours, et avec Séverine, je vais le faire de la même façon, de dire ça n'existe pas. Non, je ne dis jamais ça. Je dis, bon, ça, vous l'avez vécu comme ça, c'est une chose qui correspond à votre témoignage. Moi, comme je n'étais pas là, je ne peux rien valider. Je peux juste dire que d'autres personnes ont vécu la même chose que vous, et donc que vous n'êtes pas singulièrement folle.
Oui, tout à fait.
Mais donc, le fait que ça se projette sur l'extérieur, les psychanalystes parlent de projection, ne veut pas dire que c'est exact. Par exemple, Bernadette Soubirous, que vous connaissez bien, à Lourdes, Sainte-Bernadette, donc certaines personnes disent, mais elle est hallucinée. Mais pourtant, la Vierge lui a donné des informations, comme par exemple la source qu'elle lui indiquait, comme par exemple l'Immaculée Conception, une notion très théologique qu'elle ne pouvait pas connaître, etc. Donc tout de même, quelque part, des choses qui pourraient sembler être des preuves, voyez. Mais il n'empêche que, pour moi, ça paraît être à peu près du même mécanisme que des visions psychologiques, on va dire.
Ouais. Philippe Vallon, vous restez avec nous. Un autre témoignage va venir nous rejoindre juste après la pause. 0826 300 300, continuez à nous appeler. Philippe Vallon est à mes côtés pour répondre à vos questions, pour vous apporter, quelques réponses, au moins du réconfort, une main tendue. Puis, évidemment, si vous avez vécu des choses étonnantes de l'ordre de l'apparition ou des maisons hantées, 0826 300 300, des questions à poser également, même si vous n'avez pas vécu de phénomène, je suis sûr que vous en avez, vous pouvez venir également nous rejoindre. Pascal Obispo dans Les Aventuriers de l'étrange, Rosa 0826 300 300. Continuez à nous appeler, nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler des apparitions, pour parler des fantômes, pour parler des maisons hantées. Si vous avez des questions à poser à notre spécialiste Philippe Vallon, qui est psychiatre de formation, et psychiatre c'est son métier même, et qui est chargé de recherche à l'INSERM, Institut Scientifique d'Études et de Recherche Médicale. Et on lui doit pas mal d'ouvrages sur les phénomènes paranormaux, et notamment d'ailleurs la préface sur ce livre Apparition et maison hantée, écrit par Pascal Catala. C'est aux éditions Presse du Châtelet. 0826 300 300. Vos témoignages nous intéressent, bien entendu, et puis Philippe Vallon vous aidera peut-être à y voir plus clair. Philippe Vallon, nous accueillons maintenant le témoignage de Serge, qui a une idée sur la question de la perception. On va l'écouter ensemble. Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci de venir nous rejoindre. Vous nous appelez d'où? De quelle région?
De la région de Tarbes.
Très bien. Alors, nous vous écoutons.
Oui. Bon, moi, j'ai écouté Séverine avec attention. Oui. Et ce qui se dit dans cette émission aussi. Alors moi, mon point de vue, bien sûr, il est un peu différent. C'est-à-dire, c'est un point de vue de ceux qui étudient l'occultisme.
Oui.
Et c'est souvent un point de vue qui n'est pas pris en considération parce que justement, on rentre dans un domaine où la preuve en tant que
telle n'existe pas trop, oui.
Ne peut pas se faire aussi facilement que pour les choses matérielles.
Oui.
Vous m'entendez bien?
Ah oui, tout à fait. Oui,
voilà.
Oui.
Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est la composition de l'homme telle qu'elle se présente pour l'occultiste, hein, c'est-à-dire un corps physique amené à la vie par un corps éthérique qui est en commun avec les plantes, amené à la sensation par un corps astral qui est en commun avec le monde des animaux, et amené à la conscience par un moi, donc que l'homme et ses représentants a possédé sur la Terre. Ces différentes enveloppes dont s'organise et forment un tout qu'on appelle l'être humain tel qu'il se compose actuellement.
D'accord.
Et ensuite, il y a trois choses bien distinctes. Chez l'être humain, il y a la sensation, c'est-à-dire la pensée, le sentiment et la volonté, qui sont trois états qui s'équilibrent parfaitement quand la personne va bien. Et un devient prépondérant par rapport aux deux autres quand il y a un dysfonctionnement qu'on peut traduire par une maladie mentale. Voilà.
Pensée, sentiment et volonté.
Cette organisation-là, ce qui fait un homme, disons, en bonne santé. Alors, pour ce qui est le cas de Séverine, j'avais exprimé tout à l'heure à la personne qui m'a appelé
au téléphone,
que on a donc tous, chacun de nous, en germe, des organes spirituels qui sont si le long de la colonne vertébrale.
Oui.
Ces organes sont connus dans toutes les traditions anciennes. Bon, il y a un organe à deux pétales, à 4, à 6, à 12 au niveau du cœur, à 10 au niveau de la gorge. Ensuite, on redescend jusqu'à l'ombilic, etc. Ils sont utilisés dans le Reiki, par les médecines chinoises aussi, et ils sont connus dans l'ésotérisme chrétien comme dans l'ésotérisme oriental.
Oui, voilà. Ce sont des
organes. Oui. Sont eux qui sont à l'origine des visions des personnes qui arrivent à voir ces choses-là, parce que dans les vies antérieures, par le travail spirituel qu'elles ont acquis ou par les épreuves qu'elles ont endurées, elles ont développé ces organes-là.
Oui.
La plupart des fleurs sont illuminées, dans la moitié des pétales sont allumés. Et elles se développent soit par un travail spirituel conscient, soit par les épreuves de la vie.
Oui.
Et à ce moment-là, dès qu'elles sont complètes, on peut avoir les visions qui correspondent à chacune d'elles dans le
au niveau où elles
correspondent.
D'accord.
À sa validité. C'est-à-dire celles qui correspondent à la vision, celles qui correspondent à l'audition, au déplacement, etc. À l'appréhension des êtres spirituels qui nous entourent, etc. Qui sont notamment dans le monde astral.
Oui.
Deuxième chose, c'est que l'homme endormi, c'est un corps physique amené un état végétal, parce que le corps éthérique est toujours présent. Le corps éthérique est détruit toute la journée, pendant que la conscience, c'est-à-dire le corps astral, tant qu'on est conscient, on détruit le corps éthérique. Chez l'homme actuellement.
Enfin, il est en arrière-plan, quoi.
Son évolution, vous comprenez?
Oui.
Bref. Et alors, ce qui se passe pendant le sommeil, c'est que le corps éthérique et le corps physique restent sur le lit, tandis que le corps astral et le moi se détachent.
Ouais.
Les phénomènes d'incarnation, c'est-à-dire d'incarnation de force, comme celui qu'a subi
Séverine,
c'est ça?
Ouais.
En occultisme, ça peut arriver. Et c'est là qu'interviennent les personnes qui connaissent soit des formules, soit qui peuvent voir ces choses-là directement, et qui peuvent aider la personne à se protéger, évidemment, puisque c'est une spoliation du moi.
Mmh. Là, voilà. Là, Serge, évidemment, c'est l'opinion d'un mystique.
Non, c'est pas une opinion, c'est la constatation des gens qui ont eux-mêmes fait ces choses-là et qui peuvent s'en rendre compte et qui les connaissent très bien.
Oui, enfin, je veux dire, là, c'est moi, je me place en tant qu'arbitre au milieu. Là, c'est votre opinion, votre constatation et votre interprétation des faits.
Attendez,
je vous le retourne pour.
Ah oui, non, mais c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est pas un jugement de valeur.
Ouais,
c'est
bon,
c'est
juste.
Ah non, absolument pas. Ah oui, oui, non.
Peut-être intervenir si vous me permettez.
Oui,
parce que ce que dit Serge est intéressant. D'abord, il faut savoir d'où ça vient. Effectivement, les origines sont multiples dans le mysticisme chrétien, le mysticisme oriental, ça a été repris par la théosophie avec le corps astral, le corps causal, le corps éthérique, etc., le père-esprit, etc. De ça. Donc ce sont des traditions assez anciennes. Les organes dont ils parlent, on les appelle aussi chakras, bon, etc. De ça. Bon. Alors, si vous voulez, tout ça c'est connu et ça reflète un certain nombre de traditions. Ça c'est une chose, et ce qu'on appelle donc l'interprétation, donc, ou l'explication. Mais il faut savoir, et ce que dit Serge est tout même intéressant, parce que certaines personnes ont le sentiment, parfois, et d'ailleurs c'est une expérience très courante, de se détacher de leur corps. Par exemple, vous êtes en méditation, très profonde, et puis bing, vous vous retrouvez au plafond, sans l'avoir voulu. Il y a un certain nombre de gens qui vivent ces expériences, quelquefois avec un véritable état de panique. Et d'ailleurs, quelquefois, leur angoisse les ramène aussitôt dans leur corps. Mm-hmm. Vous voyez, bon. Donc on peut dire que ce sont des expériences. Et ce sont des expériences qui sont, on va dire, banales. C'est-à-dire, finalement, Madame Dupont peut vivre ça, je dirais, en France. Monsieur Braun en Angleterre. Monsieur Ramda, je dirais, en Orient, etc. Ça. Et ils vivront la même chose, vous comprenez.
Oui. Mm-hmm.
C'est-à-dire, on ne peut pas dire là qu'il s'agit d'une interprétation. C'est une expérience.
Mmh.
Et ensuite, Serge va puiser dans des traditions pour trouver une interprétation, mais cette interprétation, souvent, et je dirais, colle pas mal à cette expérience. Vous comprenez ?
Ouais.
On ne peut pas dire c'est juste une interprétation, on peut dire c'est un vécu.
Bon. Mmh.
Mais il faut tout de même faire attention, parce que les chakras, bien sûr que les médecines orientales s'en servent, mais ce n'est pas pour autant une réalité physique pour la médecine. Vous voyez ?
Bien sûr.
Comme de la même façon, quand on dit on s'est séparé de son corps, on s'aperçoit que quand on est au plafond, par exemple, eh bien, on peut voir aussi bien le dessous d'un lit alors qu'on est à 3 mètres au-dessus. Voyez, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette idée de localisation à l'extérieur n'est pas tout à fait vraie pour autant. C'est-à-dire ce que dit Serge correspond à une certaine interprétation, mais qui doit parfois être fouillée, et quand elle est fouillée, eh bien, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi claires.
Ouais. Merci Serge, en tout cas, de nous avoir apporté votre point de vue qui était très intéressant.
Ouais, mais j'ai pas terminé, mais bon.
Ah pardon.
C'est bon, j'arrête. Non, parce que c'est pas des choses qui se résument en deux paroles comme ça.
Ah non, ça je suis tout à fait d'accord avec vous.
Moi, juste pour finir, je vais vous dire ça.
Ouais.
Comment dire ça? Je pense que la personne qui fait l'entretien avec vous est un docteur, c'est ça?
Absolument.
Un psychiatre, c'est ça?
Absolument.
Tout à fait, oui.
Ouais. Et ça, j'ai appris que le danger de la psychiatrie, c'est que justement les trois forces de cohésion, qui sont donc le sentiment, la pensée, la volonté, le danger avec la psychiatrie, c'est qu'on dépasse la barrière. Parce que je voulais pas parler d'une chose, hein, c'est de l'initiation. Alors l'initiation, c'est justement la pénétration dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire leur connaissance en pleine conscience, évidemment, sans un gourou, c'est-à-dire si les gourous à notre époque, c'est quelque chose de dépassé, c'est-à-dire en étant conscient de ce qu'on fait et en restant à chaque étape de l'initiation, c'est-à-dire du renforcement de la pensée en premier lieu,
mm-hmm.
et ensuite de la vision. Et quand elle arrive, la première qu'on fait, c'est la vision du monde éthérique, hein, parce que les forces pour voir le monde astral sont beaucoup plus importantes et demandent un travail beaucoup plus long. Et ensuite, le monde spirituel qui est encore quelque chose de plus élevé. Et je vais vous finir par vous dire ça, et puis j'arrête. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis là, en fin de compte, vous le trouvez dans l'enseignement de Steiner, qu'on appelle l'anthroposophie.
Oui.
C'est quelque chose que je fais que je connais depuis 78. C'est quelque chose qui est bien loin d'être du dilettantisme, puisque ça a donné des choses dans le côté pratique. Hein, ça a donné
dans l'agriculture, notamment.
La biodynamique,
bien
ça
sûr.
A donné la pédagogie Waldorf, etc.
Ouais. Ouais.
Une médecine anthroposophique, etc.
Mm-hmm.
Et il avait d'ailleurs totalement cerné Freud, en disant que Freud, évidemment, ne connaissant pas s'arrêtant juste à l'inconscient, ne pouvait pas connaître ce qu'il y avait au-delà, c'est-à-dire les vies successives, ni les différentes incarnations juste après la naissance, les septenaires qui font que le corps éthérique de la mère se sépare à 7 ans de celui de son enfant. À 14 ans, c'est le corps corps astral à 21 ans, le mois, etc.
Ouais.
Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous laisse.
Merci, Serge. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Nous consacrerons une émission, une, à la réincarnation, parce que c'est un sujet tout à fait passionnant. Et à Steiner aussi, qui a fait un travail absolument remarquable, comme vous le disiez, sur l'agriculture biodynamique, qui est quelque chose de passionnant. Philippe Vallon, votre point de vue là-dessus?
Alors, mon point de vue, c'est que effectivement, je pense que Serge a raison quelque part, c'est que Freud s'est limité, je dirais, à un inconscient assez bas. Celui qui est le refoulé, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons des choses intolérables à l'intérieur de nous-mêmes, nous les refoulons, c'est-à-dire que nous les ignorons. Bon. Mmh. Et un certain nombre de personnes ont dit, mais où est la religion là-dedans, la démarche mystique qui va vers le divin à l'intérieur de nous-mêmes? Donc un certain nombre de personnes parlent de supraconscient. Donc ce que Serge traite, c'est quelque part, on pourrait dire, cette partie religieuse, cette partie qui a trait au paranormal, cette partie qui a trait à l'éveil spirituel. Vous voyez que Freud, qui se voulait laïque et scientifique, a effectivement non seulement ignoré, mais parfois aussi un petit peu nié, même s'il était, dans un certain moment de sa vie, assez ouvert, vous voyez.
Ouais.
Mais on peut dire que c'est Jung, finalement, qui s'est beaucoup plus orienté vers ça, qui lui a donné un développement plus important du côté même de l'ésotérisme.
Oui, oui, complètement. 0826 300 300, notre standard est encore à votre disposition pour un quart d'heure, puisque notre émission s'arrêtera à minuit, les aventuriers de l'étrange, donc avec évidemment notre standard 0826 300 300. C'est un peu, quoique non, c'est pas très éloigné du sujet, les apparitions, les maisons hantées. Si vous avez des témoignages à nous apporter, cela nous intéresse, une réflexion à apporter à ce propos également, 0826 300 300. Une émission cette fois-ci consacrée au spiritisme. Qui n'a pas fait tourner les tables un soir, histoire de voir si ça fonctionne, histoire de voir si le guéridon bouge bien, ou avec un verre au milieu, vous savez, avec les lettres, le verre qui peut-être s'est déplacé. Peut-être avez-vous eu des résultats tout à fait étonnants, surprenants. Peut-être avez-vous eu peur aussi également. Les esprits, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on est en train de dire ce soir? Bien, vos témoignages nous intéresse, vous pouvez appeler dès maintenant au 0826 300 300 pour en discuter avec Cyril qui vous attend à notre standard et on aura le plaisir de vous rappeler demain dans notre émission. On aura deux représentants de l'Union Spirit de France et francophone qui seront avec nous et on parlera de ce qu'est le spiritisme, les principes du spiritisme et puis nous parlerons d'Allan Kardec évidemment qui a été celui qui a porté haut le standard du spiritisme. Philippe Vallon, c'est un sujet que vous connaissez bien également, j'imagine.
Oui, disons que je me méfie un petit peu du spiritisme parce que j'en vois surtout les dangers, c'est-à-dire des personnes qui ont cherché à faire tourner les tables.
Bien
tant
sûr.
Que ça ne marche pas, c'est-à-dire que la table reste tranquille, il n'y a pas de danger. Mais à partir du moment où elle bouge et même elle va se lever et se fracasse contre le mur, il y a un risque d'ébranlement spirituel.
Ouais.
Et je peux vous dire qu'il y a un chercheur américain qui s'appelle Owen qui s'est amusé à créer un esprit qui s'appelle Philippe, qu'il a appelé Philippe. Tant que les gens posaient des questions dont les réponses avaient été définies, ça allait très bien. Quand on lui posait des questions qui n'avaient pas été déjà abordées avant la séance, ça n'allait plus bien du tout. Mais ce qui était amusant, c'est qu'à la fin, un des collaborateurs, enfin ils avaient décidé tous ensemble de se donner des bonbons pour se féliciter de cette séance. Et puis on a dit, mais on va donner à Philippe, donc l'esprit, un bonbon. Et puis ils sont tous sortis.
Oui.
Et puis le dernier à être sorti s'est dit, mais enfin c'est idiot, on va pas gâcher un bonbon. Il est revenu et la table s'est soulevée et de manière très très menaçante, empêchant donc le jeune garçon de prendre le bonbon.
Ah oui, mais attendez, piquer un bonbon quand.
Absolument, l'esprit voulait garder son bonbon, bien évidemment. Bon, et puis mais ça jusqu'à 45 degrés. Vous voyez, la table est inclinée à 45 degrés et le bonbon ne bougeait pas. Et là-dessus, ce garçon s'est paniqué, est allé chercher donc celui qui a organisé la séance.
Oui.
Et ils ont soulevé à ce moment-là tous les deux ensemble la table et le bonbon a glissé bien avant d'atteindre les 45 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a un phénomène qui semble être d'origine du paranormal. Enfin, c'est pour vous dire qu'il y a quelquefois, avec le spiritisme, des choses très étranges.
Il faut se méfier. Ben, on en parlera justement demain à partir de 22h avec deux représentants de l'Union Spirit française et francophone. Philippe Vallon, revenons sur le dossier de ce soir, les maisons hantées, avec deux cas que vous avez étudiés, que vous connaissez bien, dont j'aimerais que l'on parle. Un cas notamment de qui s'est déroulé, que vous connaissez bien, dans un garage, c'est ça?
Voilà, c'est une histoire qui m'a été racontée, je n'ai pas été vérifié moi-même, mais donc j'aime que je le signale. Mais donc c'est une personne qui m'a relaté une histoire qui date à peu près d'une quarantaine d'années maintenant. C'est des projections de cailloux, mais très fréquentes et très, très répétées, qui cassaient les vitres des phares, qui allaient se mettre sur les pare-brises et qui n'ont en fait jamais blessé personne. Et le phénomène a semblé correspondre à l'arrivée d'un jeune homme, d'un jeune garçon, et ont disparu quasiment donc au moment
à son
où
départ.
Il est parti. Voilà. Ouais. Et le phénomène est observé par un certain nombre de gens, et donc a créé toi, Marielle et moi dans ce garage. Surtout que personne ne s'intéressait là au spiritisme.
Et les cailloux, comme ça, j'allais dire, venaient de nulle part.
Venait de nulle part. Là, je n'ai pas le détail exact, mais dans d'autres endroits, les cailloux, on repère leur origine. La rivière voisine ou des choses de cet ordre-là. Disons que là, souvent, la cause, l'origine géologique du caillou est parfaitement déterminée. Mais ça ne veut pas dire qu'on sache pour autant comment ils ont pu être là.
Ils ont été lancés. Ça me rappelle l'histoire d'Arcachon, ça, dans notre où il y avait dans la clinique d'Arcachon des projections de cailloux aussi. Si je me souviens bien.
Oui, mais alors là, l'histoire est beaucoup plus, j'allais dire, douteuse, parce qu'en fait, c'est un cas qui a été examiné par le docteur Queneau, propriétaire de l'établissement, et quelqu'un qui était donc fils d'un membre de l'Académie de médecine, si mes souvenirs sont bons. Ce cas a été examiné également par Robert Toquet. C'est pour ça que je l'ai inséré dans mon petit que sais-je sur le paranormal, dirais en toute confiance. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure, j'ai donné des conférences là-dessus, et qu'il y a une personne qui m'a dit, mais écoutez, vous savez, je connais bien ce problème, puisque moi-même, je vivais à Arcachon, et j'ai contacté la directrice de l'époque, et qui m'a dit que tout ça était parfaitement faux. J'ai dit, attendez, il y a une émission qui a été faite dans, un mystère et qui a prouvé que cette histoire était exacte. Et d'ailleurs, cette directrice a témoigné à l'antenne que toutes ces choses étaient vraies.
Oui, c'est l'émission qui est passée à la télé.
Absolument. L'émission Mystère, il y a une dizaine d'années, produite par Philippe Plaisance. Bon. Et de ce fait, cette personne m'a dit, mais non, ce qui s'est passé, c'est que les interviews ont été coupées de façon à inverser le discours de cette personne. Et l'histoire telle que j'ai pu la reconstituer moi-même, c'est-à-dire qu'il y a eu une première jeune fille qui était effectivement malade donc dans cette clinique orthopédique, et bon, elle est partie au bout de quelques temps, et une seconde jeune fille est arrivée, et donc qu'on va appeler Jacqueline, et qui en fait semble avoir été quand même une intrigante. C'est-à-dire qu'enfin, moi, j'appellerais même ça, à la limite, une hystérique. Bon, ce n'est pas son nom, bien évidemment. Oui. Et elle semble avoir littéralement, on va dire, c'est pas un terme très ésotérique, c'est plutôt médical, envoûté, j'allais dire, le pauvre docteur Queneau. Et il a fait prendre,
des vessies
pour des lanternes.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien eu de vrai là-dedans. Et toutes les interviews que nous avons pu avoir avec la directrice toujours vivante, les infirmiers de cet état, personne n'a pu confirmer ce superbe film qui a été fait donc dans l'émission
Mystère.
D'accord,
très bien. Et alors, pour conclure, on va revenir sur un cas que j'ai moi-même étudié, puisqu'il y a quelques années, j'avais le plaisir de présenter une émission sur les phénomènes paranormaux avec Yves Lignon, que je salue ici d'ailleurs s'il nous écoute. On est allé étudier un cas d'une église dans le Jura, c'était à Delain, si je me souviens bien, et j'avais interviewé le maire avec Yves pour qu'il nous parle de ces phénomènes qui se produisaient dans son église, et une semaine ou 10 jours plus tard, on a appris qu'en fait c'était le maire qui avait provoqué ces phénomènes. Mais là, quand on en a parlé lors de la préparation de cette émission, on me dit oula, mais ça ne s'est pas fini là justement.
Voilà, alors tout ça je le tiens de Madame Becker, qui est donc journaliste et qui a interviewé personnellement sur ce cas. Donc vous rappelez que c'était en 98, en octobre, 3 personnes dont le maire qui prépare donc la tenue d'un concert un peu plus tard, et successivement 3 ampoules vont se briser à leurs pieds alors qu'il n'y a personne pour les lancer. Quelques temps après, c'est la tête d'une statue de plâtre qui surgit comme ça et tombe à terre. Et puis là, puis un autre jour, c'est le corps de la statue tout même très lourd. Et petit à petit, il y a donc la police s'émeut, il y a des quantités de gens qui viennent voir des parapsychologues, etc., etc. Et on finit par une enquête assez poussée, finit par incriminer le maire, qui est donc enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et Madame Becker est allée interviewer, donc voir un petit peu ce qui se passait, et elle a interrogé ce maire, qui a semblé un peu perplexe. Et elle lui a demandé ce qui s'était passé effectivement. Elle lui a dit, écoutez, je dois bien vous avouer que l'histoire des ampoules, c'est bien moi qui les ai jetées.
Oui.
C'est-à-dire que les autres s'étaient éloignés et j'ai profité de la distraction pour envoyer ces ampoules par terre. Même chose pour un vase, même chose pour la statue de Saint-Joseph. Mais par contre, l'autel de 200 kilos qui s'est déplacé de 10 centimètres, ce n'est pas moi. Et
ah bon,
d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la police avait fermé l'église et que j'étais incapable d'entrer dans cette église. Et donc, il me dit, c'est un phénomène qui m'a complètement échappé et qui ne vient pas de moi. Et donc, l'hypothèse que Jean Vernet a pu donner, et qui est la mienne également,
ouais,
c'est que ce n'est pas du surnaturel, dans le sens, ce n'est pas le diable qui a pu faire ça, mais des forces non explorées. Et donc, Jean Vernet disait qu'on se trouve en présence de personnes dont l'excès d'énergie peut avoir des effets bien curieux. Alors ça, c'est la citation de Jean Vernet.
Ouais.
C'est-à-dire que pour lui et comme pour moi, il y avait une convergence de personnes autour de l'église de Delain qui ont créé un phénomène qu'on appelle, enfin, d'une manière un peu ésotérique, un égrégore, c'est-à-dire finalement un effet psychokinétique de masse et qui est probablement à l'origine de ce genre de choses. Alors c'est pas très scientifique ce que je raconte, puisqu'en plus, moi-même, je n'ai pas enquêté personnellement sur place, mais c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Un fraudeur au départ et ensuite un phénomène réellement paranormal.
Étonnant. Merci en tout cas Philippe Vallon de nous avoir accompagné encore une fois de plus et de nous avoir éclairé. On a eu quelques témoignages intéressants. Je pense notamment au témoignage de John avec ce qu'il a vécu quand il était enfant. Un très joli témoignage. À bientôt Philippe Vallon.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir accompagné. Demain on se retrouvera 22h minuit pour parler cette fois-ci de spiritisme et de table tournante. Si vous avez vécu ce genre de phénomène, si vous avez fait tourner les tables, on l'a tous fait, plus ou moins tous, enfin beaucoup l'ont fait. Si ça a fonctionné, bien écoutez, votre témoignage nous intéresse, notre standard est à votre disposition. Vous appelez le 0826 300 300, vous suivez la voix de la jeune femme qui vous accueille et vous allez sur la boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, vous nous laissez un résumé de votre témoignage. Surtout n'oubliez pas votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler demain et que vous puissiez participer avec nous à cette émission. On aura également en notre compagnie, évidemment, deux spécialistes pour nous éclairer, comme l'a fait si bien Philippe Vallon. On se retrouvera donc demain. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission, Cyril qui est au standard, Pierre Massias qui m'a donné un coup de main à la construire, et passez une bonne nuit avec ou sans fantômes.